Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, l'émission d'En Jase. Il est présentement midi, une minute. J'espère que vous avez attaché vos patins serrés parce qu'on part pour une balade de deux heures d'actualité à fond de terrain, les amis. Je vous résume ça très rapidement. Midi 25, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, va être avec nous pour parler de ce renforcement sur les règles de... Je parlerai de déontologie pour les juges. On leur dit, tu fais les mauvaises affaires, pas vrai que je vais juste te donner une petite tape sur les doigts. On parlait constitution aussi, parce qu'on se demande si ça vaut encore la peine de parler constitution à l'approche de ces élections-là. Midi 40, Sylvain Junot, le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, en guerre ouverte avec Bruno Marchand, même s'il ne l'avoue pas, a envoyé une autre lettre aux médias aujourd'hui. Il compare le projet de tramway au projet Saclic de la SAC. On va l'avoir avec nous. Ça va être très intéressant de l'écouter. J'ai parlé avec Émilie Pelletier en direct de l'Alberta avec le maire Marchand. J'ai des extraits à vous faire entendre. Citoyens, rassurez-vous, on ne parle pas encore de taxer vos poubelles. Le maire a dit « Je le ferai pas ».
Pas encore.
C'est pour ça que je dis pas encore. On en parle tout à l'heure. On va également avoir un commerçant du boulevard René-Lévesque où les travaux sont censés commencer ce samedi, qui va venir nous parler aux alentours de 13h05 parce qu'il ne comprend pas. Sa rue ne sera pas barrée, mais les autobus ne passeront pas. Donc, il se pose des questions. Puis, il va nous parler aussi du processus de rencontre avec les commerçants où c'est plus « voici ce qu'on va faire » que « qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour t'aider ». Donc, il va nous parler de ceci. Et on va terminer l'émission avec la chronique de Lambert de Rainville. Donc, c'est le line-up. Évidemment, on commence avec le caucus. Alors, c'est l'alignement de départ au niveau de Boulevard 101 à l'émission On en jase. On va vous informer de façon la plus optimale qu'on pense le faire pour que, justement, vous sachiez tout ce qui se passe. Et évidemment, on va parler du budget avec Antonine Iacarini et Lambert Drainville. Mesdames, comment allez-vous?
Ça va bien.
Excellent. Vous êtes prêtes? Vous avez attaché votre ceinture?
Ah, on l'a attaché depuis notre réveil, je pense.
Oh, magnifique.
Oui. C'est une grosse journée, là.
Oh, cool. Oui, ça en est une sincère.
Ben oui, journée sincère. De budget provincial. Éric Girard qui a mis les attentes très, 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 très basses. J'ai assez hâte qu'on entende que c'est un déficit de 9 milliards et qu'on est donc bien bon.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu une opération de communication pré-budget, mais le premier ministre les a remontés en disant qu'il y aurait des bonnes nouvelles. Fait que,
c'est ça.
On veut des bonnes nouvelles.
En plein ça, à voir. Mais avant de parler de tout ça dans le caucus avec Antonine Iacarini, Pascal CV, qu'est-ce qu'il faut savoir dans l'actualité?
Ben, nouveau projet de loi déposé aujourd'hui. Le ministre de la Justice veut punir les juges fautifs. Tu as parlé de ça très rapidement parce qu'on aura des invités là-dessus aujourd'hui. Mais selon le bureau d'enquête, Simon Jolin Barrette veut répondre à une demande, pas de son cru, mais qui avait été faite en 2024 par le Conseil de la magistrature. Donc, donner plus d'outils punitifs pour sévir à la hauteur de la gravité des gestes posés. Nul n'est au-dessus de la loi. Et Québec veut s'inspirer de l'Ontario parce qu'actuellement, il y a seulement deux conséquences qui sont possibles ici au Québec. C'est pas assez. La réprimande, un genre de blâme public, et la destitution. En Ontario, il y a plusieurs paliers. Et, comme tu vois, il y a un fossé qui sépare nos deux sanctions possibles. On va très vite sur le budget fédéral. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est sobre et ciblé. On a une instabilité économique. On en est conscient. C'est le dernier budget Girard qui sera présenté à Québec et dont Antonine va nous parler dans quelques instants. Il s'est passé quelque chose d'assez étrange dans le coin de la Grande Allée aujourd'hui. Il y a une femme qui a été retrouvée inconsciente et le mystère plane encore. Donc, sur une rue extrêmement huppée, là, on est dans le quartier Montcalm, sur l'avenue de Londres, près de la Grande Allée, à 6h50. Femme de 42 ans, et ça a changé parce qu'on disait dans la trentaine au moment où la nouvelle était sortie, mais qui a été retrouvée inconsciente à l'extérieur d'un domicile par un citoyen. Immédiatement, il appelle les services d'urgence. On l'a transporté à l'hôpital. On craint pour sa vie. Scène érigée, policiers qui sont sur place depuis ce matin. C'est un secteur qui est très tranquille. La maison n'était pas connue des policiers, donc l'adresse n'était pas fichée. Et on n'a pas d'autres informations. Les recherches, c'est auprès des voisins. Avec les caméras de sécurité, tout est épluché aujourd'hui. On veut comprendre ce qui s'est passé. Doug Ford a levé le ton. Arrêtez d'avoir des quotas de vente de véhicules électriques au Québec. Il a demandé au gouvernement du Québec, pour le bien de l'industrie automobile, de cesser ces dits quotas. Et Donald Trump parle encore de ses alliés, qu'il met entre guillemets, qu'il juge non réactifs, et il menace d'un désengagement américain sur le détroit d'Ormuz.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30. Comme on vient de le dire, ça va être disponible sur la page YouTube de Boulevard. D'ailleurs, abonnez-vous 418-971-1021 pour communiquer avec nous. C'est toujours intéressant de vous lire pendant le caucus d'Antonine Iaccarini. Et si jamais vous quittez votre voiture, vous dites « Oh mon Dieu, comment je pourrais écouter Boulevard et le caucus? » Bien, l'application Boulevard 102.1 sur App Store, Google Play Store, boulevard.fm, c'est notre web radio, et twitch.tv/BLVD/FM. Antonine Iaccarini, tout va bien?
Tout va bien, c'est jour de budget.
Es-tu excité?
Bien, il y a toujours un petit peu de... J'ai envie de dire de l'électricité dans l'air, mais tu sais, il faut dire que moi, pas mal de mes amis, mon conjoint, plein de monde que je connais sont tous sur la colonne parlementaire aujourd'hui. Je suis avec vous, là, j'ai vraiment plus de chance qu'eux, évidemment.
Évidemment.
Mais c'est toujours, il y a une certaine effervescence le jour du budget. Et après ça, quand le budget sort vers 16h, quand le ministre des Finances, le huis clos est levé et qu'il commence son discours, et là, c'est... une chute Montmorency ou même une chute Niagara de nouvelles, de chiffres, de toutes sortes d'affaires en même temps.
Puis ouais, là, ça sort au compte-gouttes dans les médias. Tac, tac,
parce que là, ils sont dans une pièce, ils n'ont pas le droit à leur cellulaire, ils n'ont pas le droit de parler à qui que ce soit à l'extérieur de la pièce. Ils évaluent les 600 pages du projet, en fait, du budget de Girard, au moment où l'on se parle, puis à 16h, c'est les valves sont ouvertes.
Les valves sont ouvertes, puis les journalistes sortent leurs articles, leurs reportages. Ils ont pu le préparer à l'intérieur du huis clos. Les journalistes télé-radio ont ramassé des clips. Il y a eu des entrevues qui ont été faites dans le huis clos. Et les groupes, donc syndicats, patronats, groupes environnementaux, etc., etc., sont aussi dans le huis clos. Et eux vont sortir leur communiqué de presse, leur réaction. Ils vont avoir fait aussi des entrevues dans le huis clos. Donc, tout sort en même temps à partir de 16h, quand l'embargo est levé. Puis là, c'est la surabondance. Puis là, nous, on essaie de faire le tri sur ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment marquant, qu'est-ce qui touche les gens aussi. Parce qu'un budget, ça touche chacun d'entre nous. Là.
C'est l'8e budget, Girard. Enfin, le dernier, je te dirais, parce qu'on est dans le trou de 12 milliards. Ça a sûrement été notre pire ministre des Finances de l'histoire.
Oui, la vie est un peu injuste avec les ministres des Finances, parce qu'on va se rappeler de certaines choses, notamment les déficits. Mais les déficits sont liés aussi à des contextes qui des fois, ne sont pas nécessairement là, sous le contrôle d'un ministre des Finances. Je vais le défendre un peu.
On a le droit de penser différemment.
Le ministre Girard. si, par exemple, le ministre Girard avait fait seulement un mandat et que ça avait été de 2018 à 2022, on aurait dit, mon Dieu, c'est extraordinaire, quel ministre des Finances, parce qu'il est arrivé en place puis il y avait des surplus qui avaient été cumulés par les libéraux qui, eux, avaient posé des gestes difficiles pour justement aller chercher ces surplus-là. Et M. Girard, lui, s'est retrouvé avec une grosse manne d'argent.
Il était après l'austérité de Philippe Couillard.
Puis là, il pouvait donner des petits cadeaux.
Il pouvait donner des cadeaux.
Mais il en a donné trop.
Il a baissé des impôts. Il a baissé des
tarifs. Il a envoyé des chèques.
Il a baissé toutes sortes de frais qu'on avait à payer.
Ouais, les frais du permis de conduire. Ça, c'est correct, ça touche aux poches du citoyen. Mais Caroline Debine, pourquoi il y a 12 000 fonctionnaires de plus à l'heure actuelle?
Oui, je veux juste terminer ce que je disais. Dans le fond, c'est que des fois, on profite de ce qui a été fait avant nous. Et là, il faut prendre le bilan d'un ministre et penser avec quoi, avec quel contexte il a dû conjuguer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans le premier mandat, ça a été les surplus et la pandémie. Et là, on aurait dit, mon Dieu, quel ministre extraordinaire, parce que... Bon. Et là, il y a eu le deuxième mandat, le post-pandémie, c'était un petit peu moins drôle. Hein? Dans les finances publiques, d'à peu près toutes les juridictions dans le monde se sont retrouvées dans une situation très, très difficile d'énormes dépenses et de l'inflation. Donc, on a dû gérer cette inflation-là. Et là, les décisions plus difficiles sont arrivées et les déficits ont commencé. Est-ce qu'évidemment, il y a des choix de la CAQ qui ont été faits qui explique certainement, là, je ne veux pas dire qu'ils ont tout fait correctement, mais il y a quand même un contexte à prendre en considération. Puis je pense que des fois, quand ça vient juste d'arriver, on n'a pas le recul nécessaire, mais avec le recul, moi, il y a comme quatre temps dans le mandat d'Éric Girard. Donc, le premier, c'est les surplus. Donc là, ça va bien, on baisse les frais de stationnement, on baisse les factures, on coupe les taxes scolaires.
Les surplus qui n'étaient pas attribuables à son travail.
Absolument pas, là. C'est les libéraux qui ont fait dans l'austérité de Philippe Couillard. Deuxième temps, c'est la pandémie. Et là, on sort, en fait, c'est les priorités, c'est la pandémie. Puis là, on sort le chéquier, puis on décide beaucoup par décret. Les oppositions ne sont pas écoutées. Les médias sont concentrés sur donner de l'information sur la pandémie aux citoyens. Donc, ça a été un moment bien bizarre
tout ça. Mais là vient ma critique. Ce qui était temporaire pour la pandémie est devenu permanent. Ce qui était de l'austérité chez les libéraux, on a dit qu'on a coupé dans les services, on a rajouté dans les services, mais les citoyens n'ont pas de meilleurs services.
Quand tu dis que quelque chose était supposé être temporaire et qui est permanent, est-ce qu'on a un exemple concret?
Bien, je vais te donner la fonction publique. On a augmenté la fonction publique parce qu'on était en crise pandémique. Puis c'est bien correct, là. Il fallait gérer des subventions aux entreprises, des subventions à des employés qui perdaient leur emploi, etc. Mais après ça, la fonction publique, elle ne s'est pas dégraissée.
C'est toujours plus dur d'enlever des postes que d'en rajouter. C'est facile en rajouter. Puis d'ailleurs, les gouvernements devraient se garder une gêne là-dessus. Troisième temps, bien là, c'est vraiment la période de l'inflation et de post-pandémie. Et honnêtement, peu importe le gouvernement en place, tout le monde a fait face à peu près aux mêmes défis. Mais là, ce qu'on peut reprocher au ministre Girard, c'est de ne pas avoir été assez fourmi. On a été trop cigales. Quand on avait des surplus, on s'est dit « Wouhou! » Puis là, on a eu envie de faire du bien aux gens. Là. Puis là, c'était toutes des choses, quand tu les revisites, tu te dis « Ah, ben oui. » Puis ça avait l'air nécessaire. Et aussi, quand tu as un caucus de députés qui dit « Moi, j'ai besoin d'une école dans mon comté. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'un hôpital. Moi, j'ai besoin... » Et que tu as été dans l'opposition pendant plusieurs années, la CAQ, c'était le cas, il y a beaucoup de promesses qui avaient été faites.
En effet, ça, tu as raison, tu frappes un excellent point.
Donc, on a dépensé. Et quand la brise fut venue, la cigale se retrouva fort dépourvue.
En effet,
et cogna chez son ami la fourmi qui lui dit « Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été,
c'est
ma chère cigale? »
Parce que là, il n'y en a plus de réserve. En effet.
Plus de réserve. Donc là, on se retrouve dans une situation de déficit. Et il faut se rappeler la CAQ automne 2023, là. Quelle horreur! Une séquence d'événements épouvantables pour la CAQ. Là, on parle de l'élection partielle dans Jean Talon. Là, les sondages, ça se met à baisser. C'est difficile. On recule sur le troisième lien. Et là, Éric Girard fait cette... On est en négociation aussi avec les profs. Hein. Il y a des grèves.
Oui,
c'est tough, là.
Pas juste avec les profs, là, avec la fonction publique au complète. Là.
Et les écoles sont fermées.
Puis on a eu la brillante idée de se donner une augmentation salariale de 30 %. Donc, on ne peut pas vraiment fermer le robinet.
Ça aussi, quelle erreur.
On a donné aux Kings aussi.
Et voilà.
C'est anecdotique, les Kings, pour moi, parce que c'est un petit montant.
Mais c'est pas anecdotique pour le bilan d'Éric Girard.
T'as entièrement raison.
Ça a beaucoup terni son image.
Oui.
Donc, c'était quelques millions. Quelques millions, là, pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais c'est vrai que dans le budget du Québec, c'est pas grand-chose. Mais ça a contribué, surtout que ça arrivait pendant un moment où on disait aux profs, aux infirmières, à tout le monde, on n'a pas d'argent,
Puis on venait de dire aux banques alimentaires, on n'a pas 30 millions pour vous autres, mais on avait 7 millions pour les Kings.
Oui, puis finalement, ils l'ont donné, l'argent aux banques alimentaires. Mais
ben là, j'espère donc. Mais les Kings sont même allés faire du bénévolat.
Oui, les Kings sont allés faire du bénévolat en plus. Mais ça a été vraiment un moment qui a terni l'image, je pense, d'Éric Girard, qui a été une grossière erreur de la CAQ, là, la venue des Kings. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont allés, puis c'était bien le fun, mais politiquement, c'était épouvantable.
Oui.
Et là, le quatrième temps, c'est les tarifs. C'est le retour de M. Trump. Et là, on doit encore faire des programmes d'aide, sortir de l'argent. L'économie est mise à mal. Donc, c'est sûr, c'est facile quand on revisite le passé, mais effectivement, les surplus, là, avec le recul, là, on aurait dû faire plus attention.
On a dépensé trop les surplus et je me trompe-tu si je dis qu'on n'a pas assez investi dans notre économie, nos PME? On a tenté de frapper le fameux coup de circuit à grands coups de nouveautés technologiques. Puis là, avec la guerre tarifaire, on est prêt à aider ces PME-là qu'on aurait dû aider avant que ça arrive.
Il y a eu beaucoup d'aide aux entreprises, puis notamment pendant la pandémie. Moi, je ne suis pas prête à jeter la pierre, mais il y a des dossiers qui ont frappé l'imaginaire. On pense évidemment à Nordvolt, dans lequel on a misé énormément et qui finalement est un échec. Ça a été très symbolique. Puis là, tu vois maintenant, au contraire, là, on voit les deux candidats à la chefferie de la CAQ sont plus en mode qu'on doit moins intervenir dans l'économie. Donc, je ne serais pas prête à dire qu'ils n'ont pas aidé les PME, mais c'est l'image de cette entreprise étrangère à qui on a vraiment là, on a ouvert le chèque, on a déployé l'argent et qui est un échec qui vient un peu ternir
ça vient ternir aussi.
Les actions
un peu une image comme les Kings, dans le fond.
Ben, c'est ça. Puis,
mais encore en plus grande importance.
Oui, puis ça a une importance. Il faut quand même le dire. Là, quand on va perdre des millions dans quelque chose qui n'est pas une priorité, puis qu'on se retourne de bord, puis qu'on dit à des gens qui en ont vraiment besoin, ben désolé, on n'a plus d'argent. Ouais. C'est sûr que Nordvolt puis les Kings, là, on l'a à travers la gorge. Et c'est tout à fait normal.
Maintenant, rapidement, je peux bien croire qu'on me dit j'ai réservé des réserves pour Christine Fréchette ou Bernard Drainville. Mais dans les faits, il devrait avoir de budget aujourd'hui.
C'est tellement bizarre comme situation.
François Legault laisse une dernière empreinte sur le Québec. Avec tout le respect que j'ai pour M. Legault, on n'a pas vraiment besoin de sa dernière empreinte.
Bon, M. Legault et M. Girard, j'ai l'impression, avaient une préoccupation pour démontrer qu'on continuait quand même à gérer le Québec malgré la course à la chefferie. Moi, je pense que la course à la chefferie aurait peut-être dû commencer avant, mais bon, il ne faut pas le passer. Rappelez-vous aussi qu'on a subi une décote de Moody's. Et une décote, ça peut sembler très théorique, mais ça a un impact sur beaucoup, beaucoup de choses, puis notamment ce qu'on paye en intérêt sur la dette et quand on emprunte de l'argent. Parce que la CAQ a beaucoup investi en infrastructure. Puis ça, c'est un autre élément important du bilan d'Éric Girard, c'est que le PQI, le plan des infrastructures, fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'argent disponible pour des projets d'infrastructures. Il y a eu un sous-financement dans les infrastructures pendant des années, notamment dans le maintien d'infrastructures. On peut penser aussi dans le réseau de l'éducation, il y a eu un vaste chantier de réparation des écoles qui était dans un état lamentable. Ça, c'est quand même un accomplissement du gouvernement de la CAQ. Mais Moody's considérait que ces dépenses-là, en fait, venaient déséquilibrer un peu la capacité financière du Québec et a décoté. Donc, je reviens au budget. Je pense que M. Legault et M. Girard voulaient montrer que le Québec continuait d'être géré. Mais là, on met de l'argent de côté, on dit on va avoir une mise à jour économique. Donc, puis j'ai un autre élément que je veux vous amener qui est plus technique. Après le budget, il y a les crédits. Okay? Les experts financiers vont vous dire que tout ce qui est le plus intéressant se trouve dans les crédits quand on reçoit le budget. À la suite du budget, on fait l'étude des crédits de l'année passée, donc du dernier exercice budgétaire. C'est un exercice de reddition de compte où les oppositions vont poser des questions sur « vous avez dépensé tant dans telle affaire, est-ce que ça a donné des résultats, pourquoi finalement on n'a pas dépensé cette enveloppe-là, etc. »
C'est lors des crédits budgétaires que Jonathan Julien avait dit « il y a des milliers de projets pour finalement avoir une feuille 8,5 par 14. »
Oui, c'est toujours un moment pour le gouvernement où les oppositions sortent toutes sortes de choses, puis on reçoit des tonnes de cahiers avec plein de papiers, puis là les oppositions fouillent là-dedans, les journalistes fouillent là-dedans pour trouver de la dirt sur le gouvernement, et on en trouve toujours. Et là, d'habitude, c'est que tu déposes le budget et il faut au moins que tu laisses passer 2 semaines avant de commencer l'étude des crédits. Mais là, il va y avoir la fin de la course à la chefferie, il va y avoir prorogation, il va y avoir un nouveau conseil des ministres, il va y avoir une mise à jour économique
en mai. Qui va répondre de ça?
Ça va être quand l'étude des crédits?
Ça va être?
Puis les nouveaux ministres vont arriver en poste. Puis là, t'es pogné pour défendre les crédits de ton ancien collègue. Le timing, la séquence temporelle là, est vraiment particulière. Et je n'ai aucune idée comment ça va fonctionner pour l'étude des crédits.
C'est quasiment bon pour la CAQ? Parce qu'on ne peut pas tant répondre. Les têtes de Turc vont changer.
Ouais, d'un autre côté, tu ne contrôles pas le message.
Ça fait un peu désordre, honnêtement. Puis oui, effectivement, t'arrives, tous tes nouveaux ministres, tu viens d'arriver, puis on dit comment ça se fait qu'on n'a pas... je sais pas, je viens d'arriver. Mais tu peux pas vraiment faire ça. Puis les fonctionnaires sont là, hein. Donc, même si le ministre a changé, il y a le sous-ministre à côté qui, lui, va dire la vérité. Puis là, honnêtement, là, c'est bizarre. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on écoute le budget d'Éric Girard aujourd'hui, qui bat d'ailleurs un record de longévité de ministre des Finances, hein, rejoignant Gérard Depelletier et Jacques Parizeau comme les ministres des Finances les plus longs, les plus longtemps. Je sais
on
pas
est
choyés. T'as l'air tellement content.
Je suis full enthousiaste.
Je pense que tu incarnes bien, je trouve, le cycle politique. À un moment donné, les gens sont comme plus capables.
Non, exactement. Plus capables d'entendre Éric Girard.
C'est ça.
Me raconter qu'il fait de la bonne job.
Ça te tente plus.
Ça me tente plus.
Je comprends.
Je suis directement là. Bon, directement dans le caucus.
Bonne chance pour passer à travers cette journée.
C'est fou comment t'as décroché complètement, toi.
Directement dans le caucus avec Antonine Iacarini, du lundi au jeudi de midi à 12h30. C'est rare, je suis comme ça. Là, je me recrains parce que ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. C'est les 5000 places en garderie additionnelles qui ont été annoncées par Éric Girard hier. Et j'explique pourquoi je trouve que c'est une bonne nouvelle. On ne construit pas de nouvelles bâtisses. On ne réinvente pas à roue. On pogne 5000 places qui, présentement, ne sont pas subventionnées. Puis on dit aux gens, à ces gens-là qui font de bonnes jobs. « Hey, sais-tu quoi? On te subventionne maintenant. Les parents, ça va coûter moins cher. » Puis all the way, on est parti. Je trouve ça génial comme concept.
On convertit des places. C'est sûr que ça ne peut pas juste être du convertissement. Est-ce que c'est un mot qui existe?
Je sais pas, mais je te laisse.
Conversion. On peut pas faire juste de la conversion parce qu'il y a quand même 40 000 enfants en attente d'une place en garderie. Puis, tu sais, éventuellement, ça prend des nouvelles places aussi. Il faut additionner. On peut pas juste convertir. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Puis, ça m'a donné envie de faire une espèce de bilan du gouvernement de la CAQ en matière de garderie. Parce que c'est un dossier qui n'est pas facile, les services de garde. Depuis l'invention des CPE au Québec par Mme Marois et Mme Léger il y a quelques années, on n'a jamais réussi à compléter vraiment le réseau. Hein.
En effet.
Tu sais, au Québec, là, tu veux une place à l'école, tu n'as pas besoin d'être sous des listes d'attente puis à commencer à faire des tours de passe-passe pour trouver une place à l'école.
Puis c'est pas comme si le taux de natalité au Québec est en explosion.
Et en effet. En effet, excellent point.
Je fais juste réfléchir. Là.
On jase.
Ça tombe bien si on en jase.
On en jase. Donc, effectivement, c'est un peu un échec collectif dans le sens que c'est une belle réussite, là, le réseau des CPE. Puis au Québec, on est vraiment chanceux parce que si vous comparez avec ailleurs, là, je peux vous dire qu'aux États-Unis, les femmes, il n'y en a pas de place à garderie à 8 $ par jour. Là. Cela dit, ça aurait été bien de compléter ce réseau. Parce que, tu sais, d'avoir une Cadillac, mais que tu n'as pas tout le monde qui peut embarquer dedans, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on pourrait prendre des Yaris puis avoir toute une place dans une Yaris? Ça serait peut-être mieux que d'être dans la loterie, d'essayer d'avoir une place en CPE. Et c'est mal fait, la vie, parce que je t'explique le cycle de la création des places en garderie. Le PQ créait des places, investissait pour créer des places. Puis là, après ça, les libéraux désinvestissaient, mais annonçaient les places que le PQ avait démarrées pendant qu'il était au pouvoir.
Ouais.
Après ça, le PQ créait des places, investissait. Puis là, après ça, les libéraux désinvestissaient puis annonçaient les places du PQ. Donc, c'est dur de faire des bilans justes d'un gouvernement en matière
effet,
de création.
En effet, je suis d'accord.
De puis des fois, on est mêlé un peu dans les chiffres, puis c'est très long créer des places en garderie au Québec. La CAQ a réussi quand même à créer pas mal de places. Là. On parle de 34 000 places qui ont été créées depuis leur arrivée au pouvoir.
Très bon bilan.
C'est un bon bilan, mais c'est sûr que quand tu attends ta place en garderie et que tu n'en as pas, tu ne trouves pas que c'est un bon bilan, puis on le comprend.
Hey, c'est rare que je vais dire ça, mais là, il ne faut pas les juger pour ce que les autres ont fait avant.
Bon, et c'est là que j'arrive sur le bilan désastreux du Parti libéral du Québec en matière de garderie. Là. Puis je ne vais pas y aller de main morte. Le Parti libéral a toujours davantage misé sur le privé et même a eu des gros enjeux d'éthique et de financement politique. Hein. Les permis de garderie, là, ça a été un enjeu éthique, on se rappelle, de Tony Tomassi notamment. Donc, on favorisait des places au privé parce que c'était comme un cadeau. Là. Tu sais, tu ouvres-toi une garderie, on va te subventionner, etc.
C'est ça.
Alors que le PQ a toujours plus misé sur les CPE. Puis,
en installation.
En installation, mais cela dit, tout le monde a sa place dans ce réseau de garderies, puis il y a de la place aussi pour des milieux familiaux puis des garderies privées subventionnées. Mais le Parti libéral n'a pas investi énormément dans ce réseau-là. Mm-hmm. Et même, il n'y avait pas des ministres de la famille qui étaient à 100% de leur tâche. Hein. Souvent, le ministre de la famille au Parti libéral, il faisait d'autres choses en même temps, puis c'était très secondaire pour eux. Donc, la CAQ a un peu brisé ce cycle-là. Il a quand même beaucoup investi, mais on retient souvent la liste d'attente. C'est comme la manière qu'on a de juger si on a livré la marchandise. Et malheureusement, ben elle demeure quand même assez grosse.
En effet. On passe immédiatement avec le ministre de la Justice au niveau du gouvernement provincial, M. Simon Jolin Barrette. M. Jolin Barrette, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui à l'émission L'Enjase.
Bien, bonjour, ça fait plaisir.
M. Jolin Barrette, êtes-vous en guerre ouverte avec les juges?
Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, on a déposé un projet de loi qui répond aux demandes du Conseil de la magistrature. Donc, vous avez probablement vu le juge en chef de la Cour du Québec, qui est également président du Conseil de la magistrature, nous avait déposé un rapport nous demandant de leur donner davantage de pouvoir en matière de déontologie, donc pour faire en sorte qu'il y ait davantage de possibilités de sanctions en fonction de la gravité de l'infraction qui est commise, et c'est ce qu'on a livré aujourd'hui.
Pourquoi faut-il gérer les juges? Je me sens, moi, là, tu sais, j'y regarde, puis ils sont au-dessus, là, à l'organigramme le plus haut au niveau de la justice. Je comprends pas qu'il y ait des manquements, autant de manquements au niveau des juges.
Bien, vous savez, vous avez raison de le dire, c'est une fonction extrêmement importante, être juge de la Cour du Québec ou être juge municipal, donc les deux types de juges que le gouvernement du Québec nomme. Et on occupe des fonctions importantes et on rend des décisions importantes sur la vie des gens. Donc, c'est sûr qu'on doit avoir un comportement exemplaire lorsqu'on est juge. Il peut y arriver certaines situations où il y a des écarts de conduite, puis le code de déontologie des juges est là. Et le Conseil de la magistrature procédure est là, est en place pour faire en sorte d'assurer la déontologie judiciaire. Donc, les citoyens peuvent déposer une plainte et la plainte va être traitée par le Conseil de la magistrature. Puis, il faut comprendre que c'est un processus qui est indépendant du gouvernement. C'est un processus où la justice est rendue par 16 personnes qui écoutent la plainte, qui font l'enquête et par la suite imposent une sanction.
Vous avez parlé de manquement, justement. On parle de juges qui dérapent là, dans certains articles de journaux. Est-ce qu'on peut, pour le bénéfice de nos auditeurs, donner des exemples? À quoi ça répond comme problématique, ces nouveaux pouvoirs-là? Et qu'est-ce qu'on entend par un juge qui dérape?
Bien, il y a tout type de comportement, il y a tout type de plainte que les citoyens peuvent faire par rapport à la conduite du juge. Donc, vous avez vu dans les médias, il y a eu plusieurs cas d'exemple relativement au comportement, à des agissements qui n'étaient pas acceptables. Et par rapport aux nouveaux pouvoirs qu'on donne, ben dans le cadre du Conseil de la magistrature, c'est notamment de suspendre le juge pour une période allant jusqu'à 6 mois, de faire en sorte d'ordonner de suivre une formation ou une thérapie, de cesser de poser un acte dérogatoire ou de cesser d'exercer une fonction incompatible avec sa fonction, aussi de l'affecter à d'autres fonctions le temps que les mesures soient mises en place, également qu'il présente des excuses, qu'également que le juge mette en place des façons de faire différentes pour corriger son comportement. Alors, on laisse vraiment la latitude au Conseil de la magistrature d'imposer des nouvelles sanctions. Actuellement, c'était uniquement la réprimande ou la destitution. Donc, il était pris avec tout ça, puis la destitution. Bien, ça fait, on n'a jamais eu de recommandation de décision de la part du Conseil de la magistrature. Donc, on répond aux besoins du Conseil de la magistrature d'avoir plus de latitude pour imposer la bonne sanction en fonction du comportement délictuel.
Est-ce que vous recevez des mécontentements des gens, bien, dans ce cas-ci des juges, qui n'en ont rien à faire d'avoir un palier de sanction dans leur code de déontologie avec le Conseil de la magistrature?
Non, je pense que les juges sont très ouverts relativement à que la loi soit réformée de la façon dont on le fait, parce que vous savez, tout le monde travaille pour la confiance du public. Donc, dans toutes les organisations, il peut y arriver qu'il y ait certains cas qui s'éloignent de la norme et du comportement qui doit être exemplaire. Vous savez, dans n'importe quelle organisation, ça peut arriver. Cependant, il faut viser le moins possible et surtout, il faut que les juges lavent plus blanc que blanc par rapport à leur comportement. Donc, si jamais il y a un écart, si jamais il y a un comportement qui est contraire au code de déontologie, bien, il faut qu'il puisse être sanctionné adéquatement en fonction de la gravité du geste. Puis c'est ça le pouvoir qu'on donne au Conseil de la magistrature parce que moi, comme ministre de la Justice, je veux que les gens aient confiance dans le système de justice, aient confiance dans les juges et la majorité se comporte adéquatement. Ils font un bon travail, travaillent fort également, mais il peut y arriver certaines situations que certaines personnes agissent d'une façon qui n'est pas acceptable et là, le Conseil de la magistrature est là pour les sanctionner.
Petite parenthèse sur ce que vous venez de dire. Est-ce que ça ne peut pas jouer sur la perception, par contre? Parce que si on n'avait pas ces modalités-là de sanctions auparavant, c'est-tu un choix de se dire « faut pas mal faire paraître nos juges » parce qu'après tout, c'est eux qui cognent avec leur marteau sur la table à la fin pour dire coupable ou non coupable à d'autres individus de la société?
Bien, comme je vous dis, il faut travailler toujours à rendre la confiance du public dans le système de justice le plus fort possible. Alors, partant de là, manifestement, il y avait un enjeu avec le régime de sanctions. Alors, on vient le modifier justement pour que les gens se disent, bien, si je dépose une plainte et que le Conseil de la magistrature reconnaît qu'il y a eu une faute, bien, que la sanction soit appropriée en fonction de la gravité de la faute. Puis, vous savez, je pense que dans notre système de justice, lorsqu'on se trouve avec quelqu'un qui est nommé à la fonction de juge, bien entendu, son comportement, la société s'attend à ce que son comportement soit exemplaire. Puis le Code de déontologie et le Conseil de la magistrature sont là pour s'assurer que ça soit le cas.
Monsieur Jeanlin Barrette, je change de sujet. On a appris dans la presse ce matin que l'assassin de Chun Woo Kim, qui a été assassiné dans son dépanneur Xavier Gelati, le 4 août dernier, il y a un petit du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal qui avait sonné l'alarme que cet individu-là devrait être hospitalisé. Il entendait des voix. Il se prenait pour un tueur dans un jeu vidéo. Est-ce qu'on va augmenter justement la portée de P38, de la loi P38, pour permettre des hospitalisations forcées en plus grand nombre?
C'est un dossier sur lequel je travaille avec ma collègue à la santé, Mme Bélanger. Puis effectivement, on s'est engagé à revoir les dispositions de la loi, justement, pour faire en sorte que les personnes qui sont dans un état de santé mentale difficile puissent être prises en charge. Même chose également pour les familles. Les familles qui accompagnent les gens qui ont des problématiques de santé mentale, on en a tellement entendu d'histoires qu'il faut s'assurer que les critères soient modifiés. Alors, on y travaille et prochainement, vous pourrez voir le fruit de ce travail-là.
La course à la direction de la CAQ bat son plein. Là. Ça va se terminer dans quelques semaines. Il risque d'avoir, évidemment, des changements au Conseil des ministres. Est-ce que vous, votre préférence, ce serait de terminer le mandat dans ce poste de ministre de la Justice et de leader parlementaire?
Ben écoutez, moi, je vais servir ou le ou la nouvelle première ministre.
Mais votre préférence, là.
Oui, ben ça, c'est la cassette politique, là. On veut entendre une vraie réponse, là.
Ben écoutez, moi, j'ai toujours servi où M. Legault voulait que j'aille. Alors, je suis un fidèle soldat. Puis pour moi, les réformes que j'ai menées en matière de justice, elles sont importantes. Puis j'en ai d'autres à faire aussi d'ici la fin du mandat. Donc, aujourd'hui, on dépose un projet de loi. Bien entendu que je souhaiterais pouvoir la compléter.
OK, donc ça vous a servi de toujours aller là où M. Legault vous envoyait?
Ben écoutez, en matière de langue française, en matière de justice, en matière d'immigration, en matière d'accès à l'information, je pense avoir rempli les défis que M. Legault m'a confiés comme leader du gouvernement aussi. Mais comme je vous dis, moi je suis quelqu'un d'équipe et je vais servir où je vais pouvoir être le plus utile, où est-ce que le ou la prochaine première ministre va juger que je peux apporter le plus.
Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice à l'heure actuelle, est-ce que vous allez vous présenter aux prochaines élections?
Oui.
Oui, donc vous allez vous représenter dans votre circonscription et accompagner soit Christine Fréchette ou Bernard Drainville.
Effectivement.
Bien, félicitations de continuer votre travail politique et je vous souhaite une excellente fin de journée.
Bien, merci à vous deux. Bonne journée.
Merci. Au revoir. Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, qui a décidé de serrer la vis sur nos juges qui n'ont pas une bonne déontologie. Donc, je pense que c'est une bonne affaire qu'il fait, le ministre Antonine.
Bien, l'objectif, c'est d'augmenter la confiance du public. Mais moi, c'est sûr que bien, le Québec a des leviers limités pour cet aspect-là parce que ce qu'on entend beaucoup dans la population, c'est l'incompréhension face aux peines qui sont données. Puis ça, c'est pas de juridiction québécoise, mm-hmm. C'est plus le code criminel,
les fameuses peines Netflix à la Justin Trudeau.
Exactement. Sauf que, bon, le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, travaille avec les leviers qui sont à sa disposition. Ça semble être une demande de la magistrature, donc c'est très bon. Puis je souligne en terminant que M. Jolin Barrette est vraiment un ministre qui a tendance à être devant la parade. C'est-à-dire, c'est très rare qu'un dossier devient vraiment en feu dans les médias, là, les oppositions demandent quelque chose, puis là, se retrouvent un peu des fois les ministres à faire du rétropédalage puis à répondre à une demande des médias puis des oppositions. Simon-Jolin Barrette, souvent, c'est le premier à apporter un enjeu avant même que ça devienne vraiment une tempête médiatique ou quelque chose. Puis il a été vraiment, tu sais, si on fait le bilan de tout ce qu'il a fait, un réformateur. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une feuille de route avec des choses très concrètes
à
présenter.
C'était complexe, les dossiers. Ouais. Et moi, je l'ai agacé en fin d'entrevue en disant « ça vous a toujours servi de suivre François Legault, Antonine ». Est-ce qu'on peut voir cette tendance-là aussi chez ceux qui, bon, vont quitter le bateau parce que François Legault s'en va? C'est beaucoup de ceux qui disaient « oui, oui, merci, oui, on te suit ». En politique, c'est ça aussi. Il faut suivre la parade de l'équipe.
Bien, moi, je trouve pas que Simon-Jolin Barrette, c'est un suiveux de M. Legault du
okay.
tout. Au contraire,
Simon-Jolin
Barrette faisait des combats auprès du Conseil des ministres puis convainquait le premier ministre que son enjeu était une priorité. T'sais, c'est sûr que la langue française, ça frappe beaucoup. Puis c'était très dans l'ADN de la CAQ. Puis le premier ministre voulait qu'on insiste là-dessus. Mais Simon-Jolin Barrette apportait des dossiers qui, des fois... Tu sais, la justice, là, c'est pas dans les trois priorités des Québécois. Santé, éducation, économie, oui, là, puis se trouver une place en garderie, là, c'est pas mal ça. Là. Et lui arrivait avec des choses qui, des fois, ne semblaient pas une priorité et en faisait une priorité. J'ai toujours trouvé qu'il était hyper proactif. Et même, des fois, il y a des collègues, de ministres ou députés, qui trouvaient que il poussait fort pour ses affaires, puis tu sais, lui, il savait là, où est-ce qu'il voulait s'en aller, puis pas toujours à l'écoute des commentaires des collègues, etc.
C'était-tu le marois risqué de la CAQ?
Je dirais pas ça, mais je dirais que c'est quelqu'un de déterminé, qui sait où est-ce qu'il veut s'en aller, puis qu'il a réussi à se monter toute une feuille de route avec cette attitude-là.
En 30 secondes, Antonine, parce que demain, tu nous as booké une entrevue qui va être très intéressante aux alentours de 12h30 avec Yann Langlais, qui est directeur des communications de Santé Québec. Les médecins spécialistes à 500 000, peuvent-tu rentrer, s'il vous plaît, à l'hôpital, opérer le monde pour arrêter de se plaindre?
Ah, écoute, là, on est dans une nouvelle chicane entre Santé Québec et la FMSQ, la fédération qui représente les médecins spécialistes. Parce qu'on rappelle qu'il y a eu une entente avec les médecins omnipraticiens, qu'on est c'est en ça. Train d'inscrire plein de gens là, maintenant sur les listes de patients des médecins omnipraticiens. C'est pas parfait, mais il se passe quelque chose. Mais c'est toujours pas débloqué avec la FMSQ. Et là, Santé Québec a dévoilé qu'il y avait plein de rendez-vous qui avaient été enlevés puis que les médecins spécialistes ne voulaient plus se servir de la plateforme.
Apparemment que la plateforme ne sert à rien, mais il y a 20 % des rendez-vous qui se prennent avec cette plateforme-là. Mais moi, servir à rien, c'est 0 % Fait que là, ça veut dire qu'il y a 20 % des rendez-vous qui ne sont pas faits. Puis là, Santé Québec a calculé que c'était à peu près 600 rendez-vous qui n'ont pas été faits depuis le début de la semaine.
Tu sais, quand tu dis ça sert à rien, mais que toi, ton rendez-vous, c'était dans
la c'est parce que c'est scandaleux. Parce que quand tu vois un médecin spécialiste, parce que c'est un problème de santé plus grave que la normale.
Oui, puis on s'entend en ce moment, en plus, des listes d'attente très élevées, difficultés d'accès, ça va pas très bien. Et à travers toute cette chicane-là, bon, là, la FMSQ a décidé que la réponse à tout ça, c'était que Santé Québec disait n'importe quoi, faisait de la désinformation et a mis en demeure Santé Québec. Aïe, aïe. Tu sais, on est tous des patients, là, quelque part, là, dans notre vie, là. Tu dis, je me sens-tu oublié, moi, à travers ça, dans cette chicane-là?
Tu dis, toi. Tu sais, je compare avec les médecins omnipraticiens, OK, que j'ai critiqué aussi en ondes en disant, voyons, ils courent trop après leur chèque. Mm. Mais là, Pascal Renault, le président des médecins omnipraticiens de Québec, est venu s'asseoir et il a dit, savez-vous quoi? 630 000 qui sont sur la liste. Voici le résultat. Mm-hmm. Ben là, tu fais... Ouais, OK, c'est beau. Il y avait un enjeu patient pour de vrai.
Puis c'est ça qu'il défendait. En plein comme tu as dit, il était capable d'avoir des arguments francs, clairs, transparents. Ouais. Les gens étaient derrière eux. Puis en plus, c'est leur première ligne de front. Médecin de famille, c'est la première personne à qui tu parles, puis c'est la personne à qui tu parles
le plus
souvent.
Les gens ont une relation avec leur médecin.
Le spécialiste, puis là, c'est juste d'argent.
Mais là, imagine-toi les spécialistes. Imagine-toi, là, ma mère, ça y a pris un an et demi à se faire opérer pour un remplacement de hanche. Imagine-toi, elle était tombée pendant la grève des médecins spécialistes, puis floup. Elle n'a pas son rendez-vous lundi cette semaine.
Écoute, des histoires, là, j'en entends des gens qui attendent. C'est sûr qu'il faut être sensible aux arguments aussi des médecins spécialistes parce qu'on a des problèmes d'organisation très
grands. Ils ont complètement raison, mais pas à la personne qui attend depuis un an et demi à payer le prix pour le fait qu'ils trouvent que le gouvernement ne travaille pas assez bien et ils ont raison de trouver ça. Non, c'est pas l'individu, c'est pas aux citoyens à payer pour ça.
C'est sûr que les médecins spécialistes demeurent des gens privilégiés de notre société,
ben oui.
Qui ont signé un serment envers les patientes. Et nos attentes sont élevées aussi. Il faut être rigoureux, il faut regarder aussi qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qui leur appartient pas. Le gouvernement n'est pas parfait, là. On s'entend dessus, là. Il y a la politique, ça a santé, là, puis il y a des choses qui doivent être faites. Mais honnêtement, quand j'ai vu la mise en demeure, je me suis dit, aïe, aïe, les patients encore, là, sont chez eux, puis ils se disent, battez-vous, puis moi, quand vous me le direz quand je serai une priorité, finalement.
Antonine, il y a un dossier passionnant dans la ville de Québec, c'est le tramway.
Ouais.
Il y a une chicane entre Sylvain Junot et
chicane.
Bruno Marchand. Ça brasse pas mal. Sylvain Junot a réécrit aux médias aujourd'hui. Tu restes avec nous pour parler avec le maire de Saint-Augustin de Demeure?
Oui, je reste avec vous.
Tu pensais qu'il allait pas répliquer, hein?
Il l'a répliqué.
Oui, hier, on a eu un petit débat. Je pense qu'il va répliquer. Il y a quelque chose, là. Ça pique au bon endroit.
Là
où ça fait mal.
Puis après ça, je vais vous faire entendre des extraits d'une entrevue que j'ai faite avec Émilie Pelletier concernant justement la mission de Bruno Marchand en Alberta. Je vais vous entendre là-dessus. Il y a des bons points que Bruno Marchand amène. Il y en a d'autres que je questionne vigoureusement. Donc, on parle de tout ça dans un instant à Boulevard 101, l'émission d'En Jase. Et Antonine Iaccarini qui nous fait le bonheur de demeurer avec nous à 12h46. L'émission En Jase, on vient de parler de budget, de place en garderie, de justice avec le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. On a le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Junot, qui va être prêt à nous parler. Sa réplique de la réplique à Bruno Marchand. Oh, ça brasse dans l'agglomération de la capitale nationale. À la météo, moins 7, c'est généralement soleillé pour aujourd'hui. 0 degré, faible neige intermittente pour demain. Et pour vendredi, 2 degrés, on ne sait pas encore si ça va être de la neige ou de la pluie. Les températures clémentes qui se poursuivent à long terme dans le week-end avec 1 degré, notamment alternance de soleil et nuages pour samedi. Pascal, évidemment, on ne peut pas passer à côté. En manchette, c'est jour de budget provincial. Éric Girard qui va présenter le tout aux alentours de 16h aujourd'hui.
Oui, cet après-midi que le ministre des Finances, Éric Girard, présente ce budget. On le dit sobre et ciblé. Instabilité économique criante, alors on va éviter de faire de nouvelles dépenses ou encore des promesses. Le premier ministre s'est prononcé, il a dit « On aura des
des bonnes nouvelles malgré tout, parce que tout le monde s'attend à ce qu'avec le déséquilibre budgétaire, on n'arrive pas à faire bien des heureux. Nos priorités, la garde d'enfants, donc mesure phare de la conversion de 5 000 places en garderie non subventionnée en places subventionnées. Ça va coûter 400 millions de dollars sur 5 ans, être effectif dès 2026-2027. Santé et éducation, des secteurs aussi qui demandent un financement. Semblerait-il qu'on en aurait un adéquat. Et dans le contexte économique, il ne faut pas oublier qu'on est en fin de mandat pour la CAQ, avant la course à la chefferie, justement. On vise la stabilité, mais quelles attentes seront comblées positivement? Ça, c'est à suivre. La Fédération des médecins spécialistes du Québec a mis en demeure Santé Québec. On dénonce des manœuvres inacceptables et qu'elle assimile à l'intimidation envers ses membres. Du côté un petit peu plus sombre, il y a une femme qui a été retrouvée inconsciente près de Grande Allée ce matin. 6h50, on appelait les services policiers sur l'avenue de Laune. C'est près de la Grande Allée parce qu'on découvrait le corps de cette femme de 42 ans, inconsciente, à l'extérieur d'un domicile. C'est un citoyen qui a vu cette femme-là allongée sur le sol. Elle serait à l'hôpital en ce moment. On ne craint pas pour sa vie. Scène qui a été érigée. On est en enquête. Actuellement, il n'y a rien d'écarté, même la thèse criminelle. Incendie meurtrier de la place Diouville, c'est à Montréal. Le propriétaire Émile Benamor a été arrêté. Rappelez-vous, incendie un des plus violents dans les derniers 50 ans. Le 16 mars 2023, 7 personnes avaient péri dans les flammes. 9 autres avaient été blessées. C'est 15 chefs d'accusation préautorisés par le directeur des poursuites criminelles et pénales qui pèsent contre M. Benamor. C'est important d'en parler. Pourquoi? Bien, il y aurait eu une négligence. Et c'est ça qu'on veut mettre en lumière pour un propriétaire. Entre autres, on louait Airbnb, pas de fenêtre pour certains des appartements. Beaucoup de choses à explorer là-dedans.
On va immédiatement rejoindre Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Lundi, il a dit sur nos ondes, « Je suis contre l'abattage des arbres dans le dossier du tramway tant que le financement n'est pas confirmé. » Hier, le maire Marchand a répliqué avec un document de 6 pages qu'il a envoyé aux médias. Et voici que le maire Junot, aujourd'hui, je vous cite, M. Junot, « À la lumière des conclusions de la commission Galland, on a vu récemment ce que peut impliquer l'empressement irréfléchi dans des projets publics d'envergure. Confondre vitesse et précipitation est rarement gage de succès. Débuter des travaux préparatoires pour un projet de 7, 10, 12 milliards qui sait sans financement complet et sûr. La situation appelle un encadrement à la hauteur des enjeux sans délai. Monsieur Junot, je vous repose la question que j'ai posée lundi. Êtes-vous en guerre avec le maire de Québec, Bruno Marchand?
Absolument pas. Ce qui me préoccupe, c'est le projet, c'est le financement, c'est la procédure, la méthode, la gestion de projet. Je suis plate, là, mais je reviens encore avec l'ingénieur que je suis en gestion de projet. On s'assure que toutes les conditions sont réunies avant de poser des gestes qui sont irréversibles. Puis dans ce cas qui nous occupe, ben le financement, il est pas là. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, il est pas attaché. On parle du fédéral qui a parlé d'1,4 et qui ne l'a jamais écrit nulle part. Mm-hmm. On parle du provincial qui a dit qu'il allait en payer, mais de combien? Parce qu'actuellement, on regarde un chiffre qui est 7,6 milliards, mais qui date de 2024. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que vous l'avez dit tantôt, là, il y a un budget qui va être présenté aujourd'hui. Allez voir le chiffre qu'il y a là-dedans pour le tramway. Et si ça prévoit pas de dépassement de coûts, qu'est-ce qui arrive s'il y en a, combien la CBDQ Infra va mettre, etc., etc. Quand le financement n'est pas attaché, la moindre des choses en bonne pratique dans gestion de projet, là, c'est de pas poser de gestes irréversibles. Donc, couper des arbres, moi, ça me va, là, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, coupons des arbres en temps et lieu quand on sera sûr qu'on fait ce projet-là comme ça. Parce que si le financement n'est pas là, il y a un problème.
Ouais. Monsieur Junot, le maire Marchand...
Si dans les 6 prochains mois, on va avoir 2 nouveaux premiers ministres.
Mm-hmm. Le maire Marchand écrit hier dans sa missive, justement, de 6 pages. Monsieur Junot, c'est faux ce qu'il dit. Le gouvernement provincial nous a assuré qu'il serait là pour financer le tramway, quoi qu'arrive. Ça ne vous rassure pas?
Ben, avez-vous des écrits là-dessus? Puis vérifions dans le budget après-midi.
Non, c'est une bonne réponse.
Rien. Moi, j'ai absolument rien. J'ai pas d'écrit. Puis le fédéral, avez-vous des écrits, vous? Non. Tout ce qu'on sait, c'est des propos. Hein, c'est verbal. Le fédéral a dit oui, on va être là pour 1,4 milliard. 1,4 milliard sur 7,6, qui est sûrement pas assez, ça fait pas 40 %. Donc, qu'est-ce qui arrive ensuite? Qui paye quoi? Moi, ça me prend juste une assurance claire. Mettons que vous avez un terrain, là, puis vous commencez à creuser du solage, puis vous n'avez pas contracté d'hypothèque. Puis là, ensuite, vous vous présentez à la banque, puis vous pensez avec ça que ça va les forcer à vous donner une hypothèque. Je ne suis pas sûr. Hein? Mais si jamais vous avez une hypothèque, puis qu'elle est signée, ben là, que le directeur de la banque change, peu importe qui arrivera, ça ne change rien. Vous avez un contrat en bonne et due forme signé. C'est simple. Là.
Vous ne trouvez pas que les choses sont faites dans l'ordre. En même temps, un projet de transport collectif, c'est pas comme un projet individuel sur un terrain. C'est énorme. Ça fait des années que c'est repoussé, et qu'on attend que toutes les étoiles soient un peu alignées pour avancer. Vous comprenez pas quand même, à quelque part, un peu le maire marchand de vouloir pousser pour que ça avance, justement parce que ça fait des années là, que ça tourne en rond, ce projet-là?
Moi, là, je vous répète que je parle pas du maire marchand. Moi, je parle d'un projet de plusieurs milliards. Puis votre collègue l'a dit en introduction, pardon. Rappelez-vous, ça clique. Hein, quand ça presse, c'est pas toujours heureux. Donc, attachons les choses comme il faut. Assurons-nous d'avoir le financement. Puis quand on le saura assuré, ben là, il n'y a pas de problème. Procédons. Puis coupons des arbres, c'est correct. Là, on peut pas passer un tramway sans apporter des modifications au paysage. Puis c'est correct. Mais tant aussi longtemps qu'on n'est pas sûr, écoutez, ça va pas. Puis je vous rappelle, il y a pas longtemps, là, en termes d'un an, deux ans, on a changé le donneur d'ouvrage, on a changé le tracé, on a changé le budget. Donc, qu'est-ce qui me dit, moi, que ça changera pas encore? Puis là-dedans, moi, la ville de Saint-Augustin-des-Morts, ben on paye à 5 % dans l'agglomération. Qu'on soit à l'abri des coûts des infrastructures, peut-être, mais de toute façon, le fonctionnement, le style, etc., attendons donc d'avoir un financement attaché avant de se précipiter. C'est juste ça que je dis, moi.
Monsieur Junot, ça dit quoi de votre relation avec Monsieur Marchand? Du moins, de la relation entre vous, en tant qu'homologue. Si vous êtes en train de vous répondre sur la place publique.
Vous pouvez relire mes écrits. J'ai jamais parlé du maire de la Ville de Québec.
Là, non, mais Monsieur Bruno Marchand vous répond par les médias. Là, vous réécrivez une lettre. Moi, ça me rappelle un certain scénario, la bombe, il y a une couple d'années, dans lequel il y avait Rififi, c'était vraiment compliqué. Il y a eu une rupture aussi dans les discussions. Qu'est-ce que ça dit de vous deux, en tant qu'homologue, et pas personne, personnellement, non, en tant qu'homologue, que vous parliez par les médias?
Bien, je répète, là, moi, je ne m'adresse pas au maire de Québec. Là. Je soulève une interrogation, une préoccupation dans la gestion d'un projet. Point. Et donc, il est important que les intervenants soient au courant des risques, puis du fait qu'on ne suit pas les règles dans un projet de quelques, bon, probablement 10 milliards. Là. 10 milliards de dollars, c'est quelque chose. Là. Donc, commencer avant d'avoir le financement, ça ne tient pas debout. C'est tout. Moi, je ne m'adresse pas nécessairement à vous parler de vous. Moi, je politise pas ça, puis je personnalise pas ça. Là. Je suis en train de parler d'argent public. Parce que ce soit le fédéral, le provincial, l'aglo, ou qui vous voudrez qui va payer, puis combien ils vont payer, ça reste que c'est toujours le citoyen, au final, qui paye. Là. Parce que l'argent vient tout le temps du citoyen.
En terminant,
citoyen,
monsieur...
Ben, il peut-tu avoir l'assurance qu'on sait combien on va payer, puis qui va payer, puis tout ça est attaché avant de commencer à couper des arbres.
Non, en effet. En terminant, M. Junot, Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, vous mentionnez la situation appelle un encadrement à la hauteur des enjeux sans délai. Qui doit offrir cet encadrement-là?
Pas moi de décider ça. Mes interventions...
Ouais, vous devez quand même avoir une idée, là, si vous le marquez, non, sur le gouvernement du Québec. Ça, c'est des PQ.
Les interventions publiques que je fais interpelle qui a le pouvoir, puis manifestement, je ne l'ai pas. Hein? Vous comprenez
ouais.
que je suis une voix...
Ben, qui devrait encadrer Bruno Marchand?
Je vous répète que je ne parle pas de Bruno Marchand. Moi, je parle d'abattage d'arbres.
Quand même lui qui va abattre des arbres, là.
Ben là... je ris parce que j'imagine pas la scène avec la
Ah ouais, vous imaginez pas? Vous imaginez pas Bruno Marchand avec la chaîne ça?
Mais là, pour moi, c'est pas à moi à prendre les décisions. Et donc, que les gens qui peuvent les prendre, les prennent, c'est tout.
OK, je sais que vous êtes prête, Geneviève Guilbeault, la ministre des Affaires municipales, elle devrait-tu dire « wow, wow, wow »?
Ben, demandez-lui à elle, je le sais pas. Moi, c'est pas moi qui ai cordon de tout ça, là.
OK.
Moi, j'ai pas de... Moi, je vais payer à la clé, je vais payer à la fin.
Ouais.
Mais autrement...
Mais il me semble que si vous voulez pas payer des dépassements de coûts, là, vous devriez demander à quelqu'un d'intervenir?
Ben... Je le demande dans le sens que je sors publiquement, puis je dis, hey, on respecte pas les règles de base de la gestion de projet. Après ça, moi, c'est pas à moi à dire à qui quoi faire, là.
D'accord. Mais ceux qui gèrent les villes, non, hein, c'est le gouverneur provincial. Monsieur Junot, je vous remercie pour votre présence à On en jase à l'émission de Boulevard 102.
Très bien, merci.
Merci. Bonjour. Passez une belle journée. Sylvain Junot, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, qui est parti en cavale contre le projet de tramway et contre l'abattage d'arbres. Vous en pensez quoi, mesdames? Me semble ça. T'sais, on écrit des lettres, on met ça dans l'univers, mais là, t'sais, à qui vous demandez, pourquoi vous faites ça, puis il y a comme vraiment de réponse claire, c'est juste « Ah, je le fais comme ça ».
Il veut pas chicaner avec, ça c'est sûr, là, c'est clair, il veut pas que ça se rende à « on se parle plus ». Peut-être qu'il connaît le moineau aussi, qui est Bruno Marchand en termes de politique, quand on le pique, on le trouve. Il a peut-être pas envie à un moment donné...
Je pense qu'il l'a trouvé, déjà.
Oui, bien, le document dispatch hier, il l'a trouvé. Là.
Mais il veut peut-être pas fermer le canal de communication à 100%, sauf que... Moi, que ça se fasse comme ça sur la place publique puis qu'ils se répondent par les médias, je me dis, là, à un moment donné, il n'y en a pas un qui a appelé l'autre et dit, hey, toi, je sais pas, t'es où en ce moment, là? OK, moi, je suis à Edmonton, on se reparle en revenant, là, prends un break.
Mais en même temps, c'est parce que M. Junot veut mettre dans l'espace public ce doute-là.
Oui.
On fait pas bien les choses. Donc, à partir de ce moment-là, tu es à la place de M. Marchand. Il faut que tu répondes publiquement, sinon tu laisses flotter qu'on fait mal les choses.
Absolument.
Donc, il veut se défendre, tu sais. Puis, il y a. Je le crois quand il dit, moi, je ne vise pas M. Marchand, c'est pas une chicane. Mm-hmm. Il est contre le projet de tramway comme il est fait actuellement. Puis il dit, non, je suis pas contre, c'est juste qu'on fait pas bien les choses. Si, on ne sent pas l'enthousiasme.
Non,
c'est
clair.
Il veut rallier du monde derrière lui.
Par contre, je trouve qu'il a raison. Les projets devraient être financés dans son entièreté pour commencer.
Sûr.
Et ça, c'est un manque de courage politique. Et je le dis très ouvertement, moi, je suis pour un projet de transport structurant à Québec. La CDPQ Infra nous a déposé un plan tramcité qui coûtait 15,5 milliards. Bien, le fédéral, le provincial puis le municipal auraient dû s'entendre puis dire « paf, on le réalise ». C'est des experts qui nous ont proposé ça.
Oui, puis sur la gestion de projet en général au Québec, je partage aussi des inquiétudes. Avec tout ce qu'on connaît, c'est sûr qu'on a le droit d'être inquiet puis de se dire « est-ce qu'on gère vraiment bien nos projets? Est-ce qu'on est de manière optimale? Est-ce qu'on fait les choses dans l'ordre? » Bien sûr, maintenant, tu sais, de comparer... Le projet de tramway avec sa clique, bon, c'est une bonne ligne de com politique, là,
ben
c'est
oui.
sûr, là, mais tu sais, c'est bien plus compliqué que ça. Le projet, ça clique, c'est pas une affaire de on a coupé des arbres avant que le budget soit ficelé. Là.
Est-ce qu'il rencontre ce pourquoi il faisait sa prise de parole publique? Tu sais, est-ce que ça. Antonine, as-tu l'impression que ce qu'il voulait faire avec ça, oui, il voulait aller avec ça, il est en train de remplir. Sa mission du genre rallier du monde derrière lui, amener la lumière sur le projet
de
tramway?
Il parle à ses citoyens. Les citoyens de Saint-Augustin, là. Et eux, là, couper des armes puis prendre le tramway, là, je pense pas que c'est leur priorité à tous de tous les instants. Donc, lui, il porte la voix de la préoccupation de ses citoyens. Il va se faire réélire par les gens de Saint-Augustin, pas ceux qui habitent dans Montcalm puis qui sont tous pour le tramway. Puis je dis tous pour le tramway en passant, il y a des gens qui se font couper les arbres qui trouvent pas ça drôle. Là.
Non.
Mais on s'entend qu'il y a un appui plus fort au centre-ville des projets de transport collectif que dans les banlieues. C'est un grand classique. Donc, lui, il parle à son monde, de son monde, il porte ce message-là.
Vous êtes plusieurs à réagir par texto, notamment des gens qui parlent de Bruno Marchand comme un idéologue, d'autres personnes qui disent « Hey, coudonc, il est en train de préparer sa campagne électorale pour le PCQ avec Duhaime? » Il n'a pas fermé la porte à aller au provincial, monsieur Junot, lors de notre dernière entrevue.
C'est quand même un point qui se vaut, ça.
Ben oui, exactement, ça se vaut parfaitement. Très hâte de voir où tout cela va mener.
On en jase.
Pascal, le maire Junot a bien beau nous dire « Je suis pas en guerre avec Bruno Marchand », je te fais entendre un extrait d'Émilie Pelletier qui est présentement avec le maire Marchand en Alberta sur la réaction de Bruno Marchand quand il a justement pris connaissance de la première lettre de Sylvain Junot.
Là, par les affirmations du maire de Saint-Augustin qui dit que le financement du tramway n'est pas totalement attaché. Tout ça, pour le maire de Québec, c'est totalement faux. Il martèle que le financement est complet et que donc les abattages d'armes, notamment, qui s'accélèrent encore à compter d'aujourd'hui là, dans le secteur P12, sont nécessaires là, dans le cadre des travaux préparatoires pour.
Alors, le maire Marchand de l'Alberta n'a pas apprécié la première lettre. Tu t'attends à quoi après cette nouvelle lettre de Sylvain Genoux? Est-ce que le maire va dire « bon, je vais prendre le temps de revenir à Québec » ou encore il n'a pas le choix de répliquer?
Moi, je pense qu'il va attendre. Le branle-bas de combat, c'est contrairement au moment où je t'avais dit « Genoux va répondre »,
ouais.
Puis il a répondu aujourd'hui. Là, je crois que le maire Bruno Marchand va dire « OK, là, tout a été dit, on va se réaligner, on va se reparler, puis s'il y a quelque chose, on va le faire ensemble ». Je comprends tes revendications, mais à un moment donné, il doit tellement se dire « je dois pas ouvrir trop de dossiers en même temps sur ce sujet-là qui est déjà épineux, qui est déjà chaud ». Tu n'as pas cette impression-là?
Oui, moi, j'ai l'impression que là, il ne répliquera pas. Il le fait de façon très complète avec un document très étoffé de 6 pages. Donc, d'après moi, il va laisser ça passer. Il revient à Québec. Il va être d'ailleurs dans l'émission Gravel dans le retour à 16h30 lundi prochain. Donc là, j'ai l'impression qu'il va plus, justement...
Si j'étais son attaché de presse, moi, c'est ce que je lui conseillerais.
Moi aussi, c'est ce que je lui conseillerais.
À moins qu'il y ait une nouvelle bombe puis il y a quelque chose qui fasse donc bien réagir. Mais tu sais, M. Genoux, on vient de l'avoir en entrevue et c'est pas contre lui et ni sa politique, mais il n'a rien dit de plus.
Non, en effet, tu as entièrement raison. Je te fais entendre également la façon qu'on a fonctionné à Edmonton avec les commerçants et les citoyens pour venir justement diminuer les impacts des travaux du train léger. Je t'en parle parce que immédiatement après la pause, on va avoir Marc-Antoine Munoz avec nous, qui est justement propriétaire du restaurant Trattoria La Scala, qui est située sur le boulevard René-Lévesque. Et on va être en mesure de comparer les deux façons de faire. Je te fais entendre, Émilie Pelletier.
À tous les égards, les citoyens et les commerçants ont été mis dans le coup de ce projet-là. Et ça, semble-t-il, ça favorise, bien sûr, l'adhésion des gens, une meilleure compréhension. Par exemple, pour les commerces, on les a rencontrés et on leur a... il y avait des débarcadères, il y avait des espaces de livraison qui étaient prévus pendant les chantiers, ce qui fait en sorte qu'ils ont pu maintenir leurs activités.
OK, on retient ça. Les commerçants n'ont pas été seulement rencontrés. On a dit aux commerçants, venez vous asseoir avec nous. Voici le plan. On fait comment pour vous aider? Et là, c'est les commerçants qui ont dit, ben gars, là, si j'ai un kit de débarquement, ça va faire l'affaire pour les 15 sur cette rue-là. Là, si j'ai un passage piétonnier, ça va faire l'affaire. Donc, ils sont pas arrivés. Okay, là, les commerçants, qu'est-ce que vous en pensez? C'est les commerçants qui ont pris possession de leur ville et de leurs travaux.
Puis qui ont fait avancer ce qui pourrait les aider. Puis t'as raison là-dessus. La seule chose, c'est que j'entends tout et son contraire.
Vas-y donc.
Mais j'entends des commerçants qui se disent avoir été extrêmement bien servis dans cette crise-là de circulation. Mm-hmm. Puis d'autres, zéro puis une miette.
Exactement. On va en parler avec Marc-Antoine Munoz, propriétaire du restaurant Trattoria La Scala. Comment ça se passe, la communication avec la ville? Qu'est-ce qui arrive? Parce que tu nous l'as dit en début de semaine, c'est là. Ça arrive, les travaux. Puis lui, sa rue va-t-il être fermée samedi? Il sait-tu comment il vit ça? On en parle dans un instant à Boulevard 101 à l'émission On en jase.
Hébergement Rive-Nord, c'est une entreprise exceptionnelle. Ça a été fondé en 2015, ça fait quelques années seulement. Et c'est pourquoi, et surtout dans notre mission, pourquoi on est toujours à la recherche d'innovation. En fait, je vous en parle parce qu'il faut la connaître. Il faut vraiment connaître Hébergement Rive-Nord. Un, pour peut-être être bénéficiaire ou encore pour un proche, l'enfant d'un proche ou y travailler. 6 ressources intermédiaires qui hébergent des résidents qui présentent une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Équipe continuellement à la recherche d'innovation. On améliore la qualité de vie des gens. On s'arrête pas à ce qu'on connaît déjà. On va toujours plus loin et on améliore toujours aussi la qualité des soins des bénéficiaires. Ce qui fait en sorte que ça crée une équipe passionnée, dynamique, avec des éducateurs spécialisés, des intervenants en délinquance, des travailleurs sociaux et bien d'autres. Ne serait-ce que pour faire le ménage, ceux qui sont en l'entretien d'Hébergement Rive-Nord, ils sont contents d'y travailler. On travaille sur l'ambiance chaleureuse du milieu de travail. Puis c'est important, hein? Quand tu travailles là, à quelque part, tu vois plus souvent tes collègues que ta propre famille. Tu y passes tellement d'heures. C'est l'épicentre d'Hébergement Rive-Nord que tout le monde s'y sente bien. Comme ça, employés comme bénéficiaires, ensemble, ils créent des liens. Tout le monde est heureux. Ça fait toute la différence en 2026. Tu travailles en collaboration avec des employés du réseau de la santé et des services sociaux. Les préoccupations, c'est la qualité de vie de tous, bien sûr, celle des résidents, d'animer le quotidien de la clientèle et de veiller au bien-être de chacun, employé comme bénéficiaire. Si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, rendez-vous au www.hébergementrivenord.com.
Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Émission en jase, 13h13, 418-971-1021 pour interagir avec nous. Un auditeur qui nous écrit, moi, je pense bien que la vérificatrice générale, un jour, va se pencher sur le dossier du tramway.
Ouais, peut-être. Ça se peut que ça soit demandé à un moment.
Oh que oui, parce que ce projet-là ne fait qu'augmenter en complexité et en dollars.
Donc, on parle d'un tramway, pourrait... là.
Oui, c'est avant, ça, c'est censé être simple.
Du moins, plus qu'un métro. Ben puis oui. Au départ, on disait pas de métro, ça va être trop complexe, ça va être trop coûteux. En vrai, on s'embarque pour trop d'années. Gênant.
Ben oui, c'est très, très, très gênant. On parle de ça depuis 2015. Aïe, 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 on est en 2026. 418-7801, si vous avez le goût de nous appeler. BLVD.fm, c'est la web radio, c'est les meilleurs moments qui s'y retrouvent. BLVD 102.1, c'est notre application sur App Store, Google Play Store, twitch.tv/. BLVD Baramba FM pour venir nous voir et abonnez-vous à notre page YouTube car vous y retrouvez des excellents moments dont le caucus avec Antonine Iacarini. C'est demain, jeudi 19 mars, 19h au Centre de glace Intact Assurance que va se vivre la classique annuelle BLVD. C'est quoi la classique annuelle BLVD? C'est la Winter Classic où notre gang d'animateurs et de collègues en shape ou pas en shape, vont affronter une gang d'auditeurs. Nos adversaires sont maintenant connus. C'est la gang d'essoufflés de BLVD qui va affronter les pelleteux de Bellechasse, une gang de chums qui joue à Saint-Damien, supposément un peu overweight. Donc, on espère qu'ils carburent aux anti-inflammatoires pour être capables de les battre. Denis va se prendre pour Pierrot en tant qu'annonceur maison et les boys vont essayer de reproduire les Olympiques. Matt Marcotte, Marceau, Max Larouche, Mathias, Gab Marino, etc. seront sur la patinoire. Venez faire du bruit avec votre gang à la classique annuelle BLVD, jeudi 19h, au Centre de glace Intact Assurance. Bon, c'est pas la Ligue nationale, mais ça va être une méchante belle soirée. Moi et toi également, on y sera, Pascal, pour rencontrer les auditeurs. Alors venez en grand nombre à la classique BLVD. En manchette, Pascal... Évidemment, le budget va être déposé dans à peu près, je dirais, 2h30, 2h45.
Ouais, jour de budget provincial, hein? Alors, budget du ministre des Finances, Éric Girard, tout dernier budget pour M. Girard. Alors, on le dit sobre et ciblé. Pas l'homme, le budget. Instabilité économique qui est criante et ça aurait convaincu le ministre qu'il n'y ait pas le temps de faire de nouvelles dépenses ou promesses. Alors, ça sera présenté ici à Québec. On est en huis clos depuis plusieurs heures maintenant pour les journalistes, pour les gens qui sont impliqués dans le milieu et tout ça. Il y a une mesure phare qui est la conversion de 5000 places en garderie non subventionnées en places subventionnées. Ça va coûter 400 millions de dollars sur 5 ans et être effectif dès 2026-2027. Sinon, tu le sais, gros déficit. Mais on espère laisser quelque chose d'assez intéressant pour le résultat de la course à la chefferie à la CAQ, soit pour Mme Fréchette ou M. Drainville, pour être capable de finir le mandat et peut-être offrir des petits bonbons aux électeurs d'ici la fin. Mais on vise la stabilité et François Legault s'est prononcé en disant il y aura des surprises. Il y aura quelque chose de positif qui va en ressortir. Hey, une seconde d'inattention d'un chauffeur de poids lourd serait à l'origine de ce qui s'est passé sur le Bourgneuf. Alors, ce matin, autour de 11 heures, c'est 6 véhicules qui ont été impliqués dans un accident. C'était à l'angle du boulevard Robert-Bourassa ou le boulevard Le Bourgneuf. Donc, il y a des agents de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, qui se trouvaient dans un véhicule immobilisé en attendant qu'il y ait le feu de circulation qui passe au vert, mais il a été ramassé, puis pas à peu près, par l'arrière, par un poids lourd. Impact a fait un événement domino. Hein? Tout le monde a été embouti. Donc, au total, c'est 6 véhicules. On est en enquête en ce moment sur ce qui s'est passé pour cet accident-là. C'est une difficulté aussi au niveau de la circulation qui s'est vue pendant plusieurs minutes. Là, je viens de vérifier, ça s'est résorbé, mais quand même, soyons prudents. Femme inconsciente retrouvée près de la Grande Allée. C'est un mystère, là. Ça aussi, on est en enquête en ce moment aujourd'hui. Ça grouille dans le secteur de Montcalm. Femme de 42 ans retrouvée inconsciente à 6h50 sur l'avenue de la Laune, près de Grande Allée. Ce matin, c'est un passant qui l'a vu, thèse criminelle, qui n'est pas écarté pour le moment. Doug Ford a demandé à Québec d'annuler les quotas de véhicules électriques. C'est assez, faites pas ça pour le bien de l'industrie automobile canadienne. Donc, le premier ministre de l'Ontario qui demande au gouvernement du Québec de cesser les quotas en matière de véhicules électriques. La Banque du Canada s'apprête à annoncer un taux directeur sur fonds de guerre en Iran. On attendait, on évalue les répercussions du conflit au Moyen-Orient, mais c'est sûr, ça crée des incertitudes commerciales. Les données économiques sont un peu pas faussé, mais fluide dans ce cas-ci.
On va immédiatement rejoindre Marc-Antoine Munoz, propriétaire du restaurant Trattoria La Scala sur le boulevard René-Lévesque, qui sera impacté par les travaux du projet du tramway. Marc-Antoine, merci beaucoup pour ta disponibilité cet après-midi.
Allô?
Marc-Antoine, je veux tout de suite parler d'un élément avec toi que j'ai entendu ce matin sur nos ondes dans Marceau le matin, alors que Stéphane Lachance, chef de l'opposition officielle de la ville, de Respect citoyen, nous a dit « Hey, creusez donc ça, parce qu'apparemment que le tramway, la pente dans le coin du Grand Théâtre serait trop forte et c'est pour ça qu'on n'a pas mis d'arrêt. » Et là, toi, tantôt, hors d'onde, tu m'as confirmé avoir entendu ça dans une rencontre de commerçants il y a à peu près de ça un an et demi.
Oui, quelque chose comme ça, c'était au centre Lucien-Borne. C'est là qu'on a appris qu'il n'y avait pas de station à cet endroit-là. Parce que justement, là, il y a apparemment le tramway, initialement, il est mort. Mais début, on entendait dire qu'il allait souterrain jusqu'à l'université. Après ça, on entendait dire qu'il était souterrain jusqu'à la rue Hollande. Après ça, plus officiellement, on entendait dire qu'il était souterrain jusqu'à la rue des Érables. Puis là, finalement, il y aurait manqué de budget, donc il serait plus jusqu'à des Érables, il serait jusqu'à Turnbull. Puis là, en allant à cette rencontre-là, on apprend ça qu'il serait hors terre, entre Cartier et Salaberry, parce qu'il sortait à Turnbull, justement. On a appris qu'il n'y aurait plus cette station-là, la station souterraine qui devait être pour desservir cette zone-là, là, le Marie-Guyard, le Grand Théâtre, autrement dit, la colline parlementaire, où il y a en ce moment un des plus gros arrêts de bus de la ville de Québec. Là. C'est un des gros, en tout cas.
Mm-hmm.
Puis, ben, c'est ça. On était très surpris d'apprendre ça, parce que c'est quand même important de pouvoir desservir cette zone-là avec le transport en commun. Là, le tramway, ben, s'il l'arrête dans une pente, vu que la pente est trop abrupte, ben, il ne pouvait pas le repartir. Donc, il aurait condamné cette station-là, tout simplement.
Ce qui fait
on a entendu ça un an et demi. Ouais.
En plein ça, un an et demi, par des spécialistes, justement, du bureau de projet du tramway. Fait en sorte que les gens qui travaillent au gouvernement, au complexe G, à l'édifice Marie-Guyard, vont devoir débarquer à Cartier.
Mais je pense que c'est ça. Il faudrait vérifier pour être certain, là, mais je pense que c'est ça. Moi, en tout cas, dans ce que j'ai cru comprendre, c'est ça.
On va mettre notre journaliste terrain, Pascal, Mathias Turcotte, sur le dossier. C'est clair.
C'est good.
Ouais. Je veux te parler des travaux, parce que tu me disais tout à l'heure, écoute, moi, Jeff, les autobus ne passeront pas en avant de mon resto en fin de semaine, mais la rue ne sera pas barrée. Donc, tu te poses des questions sur la séquence des travaux, là.
Oui, j'ai quand même vérifié avec la ville là, pour être sûr de ce que je disais. Là. Non, la René Lévesque ne sera pas barré cette semaine. Là, il commence à dévier les autobus pour des travaux qui vont avoir lieu plus tard. Mais quand on entend quand même les nouvelles, on sait que le fédéral, ils ont décidé qu'ils ne mettaient pas l'argent dans le tramway, du moins pour le moment. Le provincial a dit qu'il mettait de l'argent dans le tramway si le fédéral embarquait. Donc, pour le moment, le provincial n'en mettrait pas non plus, mais on va avoir des nouvelles quand même du budget après-midi. Puis surtout, c'est que la Caisse de dépôt infra, qui est supposée livrer le rapport en 2027, et non en 2026, pour savoir s'ils le font ou pas. Mais si elle remet son rapport en 2027, pourquoi on est si précipité pour couper les arbres puis dévier les autobus? Ça, c'est pas une marche qui va avoir lieu le 28 mars pour s'opposer à la coupe des arbres maintenant. C'est pas une opposition nécessairement au tramway, mais c'est vraiment pour dire on les coupera pas tant qu'on n'est pas sûr que ça se fait, parce que c'est quand même c'est magnifique, ces arbres-là, centenaires sur René Lévesque. On peut pas enlever ça si finalement, admettons qu'il n'y en aurait pas parce que le budget ne permettrait pas, parce qu'officiellement, il n'y a pas de budget fédéral de débloquer, puis le provincial embarque pas si le fédéral embarque pas.
On entend donc que vous pensez qu'on est en train de travailler pour pas perdre de temps si jamais ça débloque avec le provincial et donc le fédéral.
Ben on a plus que l'impression qu'on dirait que certaines personnes veulent avancer les travaux le plus possible pour ne plus pouvoir reculer, pour dire au provincial qu'au fédéral, regardez, on a commencé, alors vous n'avez pas le choix. Mais c'est pas comme tout à fait.
Puis la communication avec vous, tu sais, vous êtes commerçant, vous êtes restaurateur sur René Lévesque. Oui. Elle se passe comment? Parce que, tu sais, bon, on pourrait commencer à se dire, ils font venir les autobus sur un circuit en attente du tramway. Peut-être qu'on pratique, là. Mais vous, votre communication en ce sens-là avec la ville, c'est quoi?
Ben là, à date, quand même, ça a bien été. Là, même qu'hier, il a envoyé une employée de la ville pour prendre connaissance de mes besoins pour l'été prochain, pour les livraisons, pour quel espace on a besoin, qu'est-ce que ça nous prend, pour notre valet parking, parce qu'on stationne les voitures des clients, puis on peut faire 7-3 semaines, alors on en a besoin. Puis, ils ont quand même envoyé quelqu'un pour prendre le pouls de ce qu'on avait besoin. Quand j'ai appelé à la ville, l'autre fois, il a fait des petits travaux, puis il avait marqué « rue barrée » devant chez nous, alors qu'il y avait de l'espace à passer. Là, j'ai demandé qu'ils mettent accès au commerce. Et là, finalement, ils ont tassé la barrière. En fait, c'est quand même quelqu'un m'a répondu. Là, seul là-dessus, je ne peux pas me plaindre. Il a quand même été de bonne foi. Mais je trouve quand même que prendre la qui a déjà déplacé les trajets d'autobus pour des travaux, que si j'ai bien compris, qui commencerait cet été, mais pourquoi on dévie les autobus pendant des mois avant, là? Surtout quand le rapport de la Caisse des points infra va être émis en 2027.
Non, c'est un excellent questionnement que tu amènes, Marc-Antoine. Pour rappel, on parle avec Marc-Antoine Munoz, propriétaire du restaurant Trattoria La Scala. Est-ce que tu connais déjà la séquence de travaux que tu vas avoir à vivre pour cet été?
Non, pas encore, pas encore.
OK. Est-ce que tu aurais aimé le savoir à l'avance pour te préparer?
Mais je pense qu'ils ne savent pas encore. Je pense que, honnêtement, là, pour ce que j'ai par... pour les individus que j'ai parlé à la ville, là, c'était de bonne foi. Là. Puis je parle pas de la ville en général qui organise les travaux de ça, mais je parle des gens à qui j'ai parlé. Je pense qu'ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Comme ce matin, quand j'ai appelé pour savoir si on était impacté en fin de semaine sur un élève qui était barré, le gars il a fait des recherches, puis il m'a dit tous les travaux qu'il y avait, puis ça m'impactait ou pas. Puis j'ai vu qu'il se forçait, là, puis qu'il voulait me donner des réponses. Là. C'était quand même intéressant. Là. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est la coupe des arbres avant que le financement soit officiel.
Mais il y a plusieurs.
Mais ça, c'est pas la personne avec qui je parlais, là. Ça, c'est l'administration de la ville.
Il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut se questionner. T'sais, autant vous dites, bon, on collabore super bien avec nous. Super nouvelle. On est tous contents de ça. Que ça semble être fait dans l'improvisation pour quelques étapes. Et là, c'est un peu tannant parce que c'est quand même un projet de transport structurant. S'il n'est pas structuré lui-même, comment est-ce qu'on structure la ville?
Bien, c'est l'impression qu'on a. Mais écoutez, ce que le maire Junot a dit de Saint-Augustin, tout ce qu'il a dit est vrai, là. C'est, ça va trop vite. C'est, Si le financement n'est pas octroyé, ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, je suis d'accord avec le maire Junot de Saint-Augustin. Je me demande s'il y a des belles places pour des restaurants à Saint-Augustin.
Marc-Antoine Munoz, rappelle-nous la marche du 28 mars pour sauver les arbres. Ça va partir de où? Comment les gens font pour avoir de l'information?
Écoutez, ben, je sais qu'aller voir sur le site de Québec mérite mieux, ça va vous aider beaucoup. Parce que moi-même, je sais très bien que je vais y être, avec beaucoup de personnes, mais de où on part pour ça finir, malheureusement, j'ai pas l'information là. Excellent. Mais j'aurais dû me renseigner avant de passer. Je sais pas si vous posez cette question-là. Mais à partir de. Avec quand même pas mal de publicité sur le site de Québec mérite mieux, j'imagine qu'ils vont le dire. Puis je recommuniquerai avec vous pour vous le dire, vous puissiez le passer en nom.
Oui, envoie-moi.
Moi, c'est sûr que je vais être là. C'est
parfait.
Sûr que je vais être là. J'ai beaucoup d'amis qui viennent, mais je suis pas certain si on part de Saint-Charles-Garnier ou si on part d'ailleurs, mais je pense que ça part de Saint-Charles-Garnier, mais je suis pas sûr.
Envoie-moi l'information, ça va me faire un énorme plaisir de diffuser ça à nos auditeurs. Marc-Antoine Munoz, lâche pas, propriétaire du restaurant Trattoria La Scala, félicitations.
Vous viendrez nous voir. On a le pianiste tous les soirs.
Excellent, avec plaisir. Salut. Salut, Marc-Antoine Munoz, un commerçant qui nous raconte que les travaux pour un transport structurant, comme tu l'as si bien dit, ben, ils ne sont pas structurés avant tout.
Mais non, puis il y a quelque chose qui me dérange foncièrement. Parce que moi, je n'étais pas une fervente du projet de tramway. Je trouvais ça désuet, vieux, pas rapport. Puis j'espérais tellement, et j'espère encore, pas avoir eu raison, là. D'avoir juste été grognonne, de ne pas avoir vu l'avenir de la ville de Québec avec le tramway. J'espérais me tromper, j'espère encore me tromper, mais ça commence à me faire un peu, pas paniquer, genre j'endors plus, mais c'est des finances publiques, c'est la structuration de la ville pour tellement d'années, des décennies. Tes enfants adultes, les enfants de tes enfants, donc tes petits-enfants, c'est désuet et gênant. Puis je me dis, c'est un projet de tramway. Si on n'est pas capable de faire ça à la ville, là, on n'est pas capable de faire une couple de choses.
Oui, puis la séquence n'est pas la bonne à l'heure actuelle. Là, c'est vraiment ça, la très, très grosse problématique. C'est ça que tout le monde nous prouve, que ce soit des commerçants sur le terrain ou même cette fameuse mission en Alberta. Dans un instant, Lambert Drainville va nous parler de... Il va rester quoi pour la succession de François Legault? Christine Fréchette ou Bernard Drainville? Que ce soit n'importe qui va arriver comme premier ministre le 12 avril. Il va-tu y rester un peu de marge de manœuvre dans le budget? On jase de ça avec Lambert Drainville dans un instant à Boulevard 101.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Avant même le podcast.
On en jase, ton émission du midi sur Boulevard 101, 13h32. On vient de faire un bon tour d'actualité, je pense, Pascal, depuis le début de l'émission, avec les manchettes. Simon-Jolin Barrette qui est venu nous parler du fait qu'il va resserrer la vis aux juges qui commettent des actes répréhensibles.
Juges fautifs.
Oui, exactement. Par la suite, on a eu Sylvain Junot, qui est venu déchirer sa chemise à nouveau sur le tramway. Marc-Antoine Munoz, un propriétaire de restaurant sur René Lévesque, qui ne comprend pas la séquence de travaux du tramway de la ville, à tout le moins, qui n'est pas bien informé. Et évidemment, Pascal, tu veux bien nous le rappeler, c'est jour de budget aujourd'hui.
Oui, jour de budget provincial. Hein? Cet après-midi, autour de 16h, le huis clos devrait être levé. Donc, on va connaître ce qu'a mis le ministre des Finances, Éric Girard, dans son dernier budget, sous l'ère aussi de la CAQ. On le décrit comme sobre et ciblé. Pas l'homme, le budget. L'instabilité économique est criante, on le sait. Donc, c'était pas le temps de faire de nouvelles dépenses ou promesses. Et ça, on nous l'a répété. Par contre, François Legault a pris la parole un petit peu plus tôt en disant « Il y aura des choses positives, là, vous. » serait surpris par du positif. Mais on va voir c'est quoi. Je sais qu'il y a la mesure phare qui est la conversion de 5 000 places en garderie non subventionnée en places subventionnées qui coûte 400 millions de dollars sur 5 ans, effectif dès 2026-2027, qui fait bien plaisir. Mais quels seront les petits plaisirs de ce budget avec un équilibre budgétaire à les rechercher aussi, avec d'incroyables déficits? Ah là, ouais, est la question.
Exactement. Et pour en parler avec nous, on a Lambert Drainville, chroniqueur politique à l'émission Dans Jase, qui est présent les mercredis et vendredis. Lambert, comment vas-tu?
Salut les amis, très content d'être là, je suis de bonne humeur aujourd'hui.
Ah, excellent, je suis content. Lambert, il va-tu rester quelque chose au successeur ou à la successeur de François Legault, c'est-à-dire Christine Fréchette et Bernard Drainville, pour travailler à partir du 12 avril ou François Legault dit pour une dernière fois, je mets mon sceau sur le Québec?
Ben non, mais ils auront gardé une petite enveloppe. Il a dit, le ministre Girard, qu'il leur avait gardé une certaine marge de manœuvre. Puis à la quantité de promesses qu'on les voit faire, et je me suis entretenu avec Bernard Drainville, comme tu as pu voir sur mes médias sociaux récemment.
Oui.
Et il m'a dit de ses nombreuses promesses, et ce sont les promesses qui coûtent de l'argent. Et il m'a confirmé, parce que je lui ai demandé s'il comptait mettre certaines d'entre elles en application d'ici à la prochaine élection. Il aura à peu près 8 semaines pour le faire, fait qu'il va devoir bien choisir parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps. Mais il m'a confirmé que oui, il y avait certaines des promesses qu'il voulait mettre de l'avant rapidement. Donc, il aura, selon ce qu'on comprend de la bouche du ministre Girard, une certaine marge de manœuvre pour le faire. Voyons voir de quelle ampleur elle sera, cette marge de manœuvre-là. Mais quand j'entends les oppositions dire que c'est un budget qui essentiellement va avoir une durée de vie de 3 semaines, Pascal Paradis le mentionnait à l'Assemblée nationale, j'ai tendance à être d'accord. Là,
oui, on va rebrasser les cartes. Là, c'est une nouvelle personne qui arrive, elle va mettre ça à son image. Là.
Oui, puis elle va avoir fait des promesses, elle va s'être engagée sur certains éléments qui ne sont pas présentement dans le plan budgétaire du gouvernement. Fait que là, ils ont bien beau dire, c'est un budget qui est donc bien sobre, puis on rame dans le bon sens, on revient vers l'équilibre budgétaire un petit peu. Ça se peut que ça prenne le bord dès qu'il va y avoir un nouveau chef.
Lambert, on a des auditeurs qui nous textent régulièrement au 418-971-1021. On a une excellente question. Je ne suis pas grand connaisseur de politique. Je m'y intéresse depuis peu, mais si je comprends bien, dans le budget déposé aujourd'hui, on devrait y retrouver le financement du tramway, tout le moins les sommes réservées pour le tramway. L'auditeur ne se trompe pas.
Bien, ça rentre dans le... Ben, c'est drôle parce qu'on est là pour parler des infrastructures, puis ça rentre dans le
PQI.
Exactement, le PQI, le Programme québécois des infrastructures, qui est au fond, pour simplifier ça, bien simple, c'est au fond une grande, grande liste avec des niveaux de priorisation pour chacun des projets. Et donc là, tu as différentes étapes, le projet, le dépôt du projet, acceptation du projet, et après ça, ben tu as les projets qui sont placés en priorité. Il y a une annonce de la CAQ par rapport à l'hôpital Sainte-Croix à Drummondville cette semaine, par rapport à ça, qui entre dans les catégories des projets sur lesquels le gouvernement veut aller de l'avant. Alors, si le tramway obtient sa place dans la longue liste du PQI, eh bien, on pourra dire que le gouvernement a une stratégie et une prévision budgétaire de ce projet-là pour les années à venir. Voyons voir maintenant à quelle vitesse ce projet-là va monter les échelons de priorisation parce que... Ce qui se passe présentement avec cette longue liste, c'est qu'il y en a tellement des projets, puis les coûts augmentent tellement de façon gigantesque avec les coûts de construction, les coûts de main-d'œuvre, que c'est jamais. Là, chaque projet qui a été priorisé, mais là, entre le moment où on disait, ben là, par exemple, tel hôpital, la réfection va coûter 100 millions, et que là, vient le temps de mettre la pépine dans le sol, bien là, c'est peut-être rendu 130 millions. Fait que là, le 30 millions d'écart, bien, il faut que tu le trouves quelque part. Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est un 30 millions que tu vas sûrement prendre d'un autre projet qui, lui, va être ralenti. Mm-hmm. Fait que c'est un peu jammer, là. Fait que je serais, disons que je garderais mes attentes plutôt basses si j'étais un fan du tramway à Québec.
Justement, ce matin, on avait Sophie Larivière-Manta, qui est la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en entrevue dans Marceau le matin. C'est disponible sur le blvd.fm. Et elle nous disait, juste en tuyaux, en égout et en asphalte, on en a pour 45 milliards. Hey. Là, les nouveaux projets, je veux pas être prophète de malheur, mais ça va être tough en petit péché, les prioriser.
Oui, puis c'est un peu ça qui est arrivé, tu sais. On a longtemps au Québec. Tu sais, c'est plus vendeur, Jeff, hein, de te présenter en campagne électorale puis de dire on va faire un nouveau tramway.
Hey, check, ben, je vais imiter quelqu'un qui est rendu le maire de Québec, OK, qui est à son deuxième mandat. On va construire un nouvel incinérateur à 1 milliard. On va prendre nous l'argent.
Ben, c'est ça.
Mais c'est plus vendeur de faire ça que de dire je vais patcher cette rue-là à Beauport.
Exact. Puis il y en a des maires qui l'ont fait. Tu regardes Stéphane Boyer lors de la campagne municipale, la dernière campagne municipale. Lui, après avoir, dans son premier mandat, bâti l'aréna, la place...
C'est ça. La place Belle.
Ensuite, il y a eu une nouvelle bibliothèque. Il y a eu un paquet de projets d'infrastructure. Ben, pour son deuxième mandat, c'est dit, écoute, on est à côté dans Borure, là. Fait qu'on va se concentrer sur le maintien puis l'entretien de ce qui existe déjà et s'assurer de livrer ce à quoi les citoyens s'attendent. Et Catherine Fournier a d'ailleurs fait à peu près la même chose. Et les deux se sont fait réélire avec des scores records. On est pris un petit peu dans ça, là, t'sais. On n'a jamais autant investi en infrastructure. C'est vrai, ben honnêtement, pour pratiquement tout, là. Mais en infrastructure spécifiquement, là, quand la CAQ est arrivée, c'était 100 milliards le PQI. On est rendu à 164 milliards. Et pourtant, tu regardes l'ensemble du parc d'infrastructures du gouvernement, tu as 42 % de toutes les infrastructures, les bibliothèques, les hôpitaux, les routes, le transport en commun, 42 % qui est considéré en mauvais état.
Oh.
Ben, ouais, parce qu'on est rendu à colmater quelque chose. Là. C'est sûr que pendant des années, quand on n'avait pas envie de travailler en amont parce que ça faisait pas une belle jambe puis c'était pas très électoraliste ou autre, on laissait ça de côté, non?
Oui, entre autres. Et je vais vous donner encore plus de détails là-dessus. Mais le déficit de maintien d'infrastructure, dans le fond, ce que ça coûterait si on décidait qu'aujourd'hui, ben tout ce qui est un peu chambranlant, on le répare puis on le remet beau, tu sais. Ben cette facture-là, sur la même période de temps, fait que je t'ai dit que, disons, 2017-2018, la CAQ arrive, ils dépensaient 100 milliards en infrastructure dans le PQI, ils sont rendus à 164 milliards. Mais sur cette même période-là, le déficit, la facture que si on réparait tout, est passée de 20 milliards à 40 milliards. Ça veut dire que les infrastructures se sont doublement maganées sur la même période, malgré le fait qu'on a augmenté les budgets du PQI de façon quand même très considérable. Qu'est-ce, ça vient de où? Pourquoi est-ce qu'on met autant d'argent et on n'est pas capable de rattraper ce retard-là? Bien, c'est que historiquement, justement, au fil des années, on a construit, puis les gouvernements, on part des années 60, là, puis tous les gouvernements libéraux, péquistes et maintenant caquistes qui se sont enchaînés ont décidé d'investir beaucoup plus dans le neuf que dans l'entretien de ce qui se passe. Maintenant, on est dans une perspective qui est beaucoup plus équilibrée, là. Dans les plus récents budgets, on avait à peu près 50-50 en matière entretien versus nouveau projet, mais l'arrérage est tellement gigantesque et tu sais comment ça marche, tu sais, réparer une bâtisse qui est, disons, un petit peu endommagée, ça va te coûter pas mal moins cher que si elle est très, très, très vétuste. Tu sais, c'est comme exponentiel, là. C'est un peu un effet boule de neige. Plus c'est vieux, moins tu l'entretiens au fil du temps, mais plus c'est exponentiellement plus cher en bout de ligne. Rajoute à ça, évidemment, le coût des matériaux qui a explosé, le coût de la main-d'œuvre. Fait que si j'ai à te donner une image, là, c'est un peu comme si tu avais le bain un grand bain rempli d'eau qui était le budget en infrastructure. Là. Puis là, tu essaies de vider ce bain-là avec une grosse louche, mais le robinet, il continue de couler, lui, à rebord. Fait que là, tu pèles, mais il y a plus d'eau qui rentre dans la baignoire qu'il y en a qui sort. T'sais.
Fait que ça fait 20 milliards en bout de ligne.
Ça fait 40 milliards.
Ben c'est ça, t'es passé de 20 à 40, ça te fait 20 milliards de plus en bout de ligne, de litres d'eau, parce que ta louche n'a pas été capable d'en vider assez pendant que le robinet coulait.
Exact. Fait que, puis ça, bon, ça vient évidemment d'enjeux de c'est plus sexy politiquement,
ben oui.
Au projet que de l'entretien. Et aussi, la vérificatrice générale, ça fait des années qu'elle lève le drapeau jaune au gouvernement sur son système de priorisation aussi. C'est le Far West là, entre les différents ministères, à savoir c'est quoi leur grille d'évaluation sur ben qu'est-ce qui est un niveau de vétusté, tu sais, c'est classé PCDE, là, tu sais. Dis-toi que selon Santé Québec, là, il y a seulement 16 % des hôpitaux qui ont un indice de D ou de E, là, c'est-à-dire vétuste ou très vétuste. À HMR, il y a 5 pavillons qui ont une note de A.
Ben voyons donc. L'hôpital est en train de tomber en ruine.
On parle de l'hôpital qui a des écureuils dedans.
C'est Santé Québec qui nous dit ça, là.
Ben, ça, selon les évaluations du ministère de la Santé et maintenant de Santé Québec, eh bien, il y a plusieurs pavillons, à ce qui paraît, de cet hôpital-là qui serait d'une note de A. Même chose pour l'hôpital de Drummondville, où ce que là sont rendus, qui ont inventé un code turquoise, tellement qu'ils ont des dégâts d'eau, ils ont mis un code turquoise. Là, que là, quand on fait code turquoise dans l'hôpital, c'est que là, quelque part, il y a une piscine qui est en train de se créer d'un couloir. Puis encore là, tous les pavillons de cet hôpital-là sont soit A ou B. Écoute, je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'il y ait un D ou un E, là, d'après moi. Il faut que
le bâtiment s'effondre, Lambert. On est là.
Faut que le bâtiment s'effondre. Fait que, tu sais, ça, y a okay, tu sais, c'est pas régulier à travers tous les ministères.
Ouais, je comprends.
La façon de classer ça. Fait qu'après ça, comment tu veux prioriser comme du monde tes projets si, un niveau de vétusté de C pour le ministère des Transports, ça équivaut à un B pour le ministère de la Santé. Après ça, quand vient le temps de prioriser, c'est... C'est un capharnaüm, là.
En effet.
Puis il y a aussi le fait qu'on ne tient pas compte, le gouvernement ne tient pas compte du hausse de la coût des matériaux, tout ça, au fil des années. T'sais. Ils disent que le projet va coûter 100 millions, puis ils ne prévoient pas là, que ça va coûter plus cher, mais qu'ils mettent la pépine dans le sol, comme je te le disais, dans 5 ans.
Yes.
En tout cas,
il y a plusieurs tout un travail à refaire.
Mais il y a toute une structure à faire au niveau de l'évaluation. Et je pense que le gouvernement, ça fait longtemps qu'ils sont au courant. Puis il est temps, Jeff, surveillons ça aux prochaines élections. Il est temps que les électeurs votent pour des partis qui arrêtent de promettre un paquet de projets d'infrastructure puis qui disent, nous, si vous nous élisez, on va se concentrer à entretenir ce qui existe déjà.
Je suis très d'accord. Lambert Drainville, toujours un bonheur de te parler, mon chum. On s'en parle vendredi avec Fernel Morissette.
Absolument, à vendredi.
C'est un rendez-vous vendredi à midi. Lambert Drainville, Farnell, Morisset. Pascal.
Nouvelle de dernière minute. Scandale en France, mais ça concerne Patrick Bruel. C'est 8 femmes qui accusent Patrick Bruel de violences sexuelles. Donc, c'est une véritable bombe. Moi, je regarde souvent les médias européens. Ça devrait s'en venir dans nos médias dans les prochaines minutes, mais il est accusé de violences sexuelles par 8 femmes. Des gestes qui auraient eu lieu entre 1992 et 2019. C'est une enquête publiée aujourd'hui par Mediapart. C'est un réputé site web d'information français. Ils avaient mené une enquête similaire le visant l'acteur Gérard Depardieu en 2023. L'une des femmes, dont sa journaliste Marine Turchi, a recueilli les témoignages. Elle était mineure lorsque Patrick Bruel l'aurait agressée. Plus d'informations à venir.
Énorme nouvelle. Pascal, je te réserve un cadeau pour terminer l'émission, compte tenu que tu as fait des triplés mardi et mercredi. On va parler de Cole Caulfield, de son 40e but. Mathias Turcotte s'en vient en studio immédiatement à Boulevard 101.
Elle a été journaliste pendant 13 ans au Soleil et en 2006,
vraiment
elle a
parfait.
Été affectée à la couverture du 400e. Julie Lemieux est avec nous autres. Allô, Julie? Le journal Le Soleil t'avait mandaté temps plein sur la couverture du 400e.
Ben non, voyons donc, ça là.
Moi, il avait jugé à l'époque, puis c'était une bonne idée. Sur le coup, ça avait fait jaser un peu, mais il jugeait avec 155 millions d'investissements.
L'hôpital est en train de tomber, mais il n'y a pas de trouble. Mais ça vient expliquer
mais
pourquoi
il y avait des gens qui étaient
ils sont
de plus
surpris
en plus
par des événements.
À l'approche du 400e. Non, c'est qu'on n'allait pas dans.
Quand
dans
t'es
la bonne
loin, là,
je me souviens d'avoir
l'hôpital.
Vu, s'en va dans
puis là, tu regardes le rapport, tu fais ah, regarde comment il est coté.
Il
va prioriser d'autres choses.
Je pense que quand on est arrivé au 31 décembre, c'est là qu'on a vu qu'on s'enlignait dans le mur si on continuait comme ça.
Gravel dans le retour. Tous les jours en semaine, 14h.
CTB Construction est à la recherche de compagnons d'expérience en construction neuve et en rénovation majeure. Chez nous, on travaille à l'année. Salaire payé décret en tout temps et des chantiers le plus près possible de chez vous. Ajoutez à ça une prime d'embauche. Postulez maintenant au carrière.fm.
Le printemps est à nos portes. Et même s'il reste sûrement une petite tempête de neige, là, il est bel et bien en route. Quoi de mieux pour commencer cette saison que d'essayer la toute nouvelle Nissan Leaf 100% électrique? En plus, son prix en soleil n'importe quelle journée. Louez la Leaf S Plus à partir de 0% jusqu'à 60 mois. Et profitez d'incitatifs totaux pouvant atteindre 8 000 $, incluant les rabais électriques pour les clients admissibles. Alors profitez du temps doux et faites l'essai de la Nissan Leaf chez votre concessionnaire. Jusqu'au 31 mars, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Osez vous perdre dans le bleu infini. Ralentir pour mieux découvrir. Sentez-vous libre, vraiment libre. Les îles de Guadeloupe, ça se prend bien. Disponible en vol direct de Québec.
c'est le lunch chanceux de Subway, où on gagne chaque jour de la semaine. Et qu'est-ce qu'on gagne? Allons voir!
C'est le repas du jour Subway à seulement 8,99 $. Un sandwich 6 pouces, une boisson et des croustilles ou deux biscuits. Savoure un sandwich différent chaque jour, comme le pizza sub gratiné le lundi, un combiné de viande froide le mercredi, ou même un poulet teriyaki aux oignons doux le dimanche.
Exact! 7 jours, 7 repas, 8,99 $ chacun. Les repas du jour Subway. Un bon lunch, c'est pas une question de chance.
Le prix et la participation peuvent varier. Extra, boisson, bouteille, taxes et frais de livraison en dessous.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouer.
Temps de 1, Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
13h51 minutes, c'est le retour de Gravel qui suit. Francis Gosselin sera pour analyser le budget. Vous avez la chance d'avoir Antonine Iaccarini qui est dans le caucus du lundi au jeudi. Au complet dans le retour de Gravel en remplacement de Denis avec Véro et Audrey. Demain, nous, on en jase. Ça sera une petite émission que je peux qualifier spéciale, le budget provincial, parce qu'en plus d'avoir Antonine, on va avoir le directeur des communications au niveau de Santé Québec, c'est-à-dire M. Yann Langlais. Donc, on va parler de budget en santé. Alicia Despins, notre chroniqueuse politique municipale, va analyser pour nous le budget pour ce qui est de notre ville. Et on aura Lanny Dufour, notre chroniqueuse économique, qui va passer faire son tour également en fin d'émission. Mathias Turcotte est là pour jaser du Canadien de Montréal et de ce joueur exceptionnel.
Il hésite, remet derrière Alain Hudson. Hudson avec une feinte, au départ, face dernière. Hudson derrière à Suzuki. Tire!
Cole Caulfield, surnommé Cole Caulfield, marque son 40e. Un premier marqueur de 40 buts à Montréal depuis la saison 93-94. Ça remontait à Vincent Danfous. Quel scénario parfait.
C'est la première fois de ma vie que je peux connaître ça.
Ben oui, c'est vrai!
Un marqueur de 40 buts à Montréal. C'est quand même hot pour vrai, parce qu'on n'a pas eu une super équipe durant pas mal longtemps.
Oh, vous n'avez tellement pas été gâtés, jeune, ben non, mais avec le Canadien.
Hey, des joueurs étoiles comme qu'on a aujourd'hui, avec des Suzuki, des Caulfield, des Slavkovski, des Hudson, c'est magnifique. J'ai pas connu ça de mon vivant autre que Carey Price ou encore Piqué Subban, puis chez Weber, qui étaient tous des défenseurs.
Ouais.
Fait que c'est fou, raide. Cole Caulfield, 40 buts, deuxième meilleur buteur de la ligue. Il est 5 buts derrière Nathan MacKinnon.
C'est fou.
C'est une saison exceptionnelle. Il a pris, lui, Nick Suzuki, Juraj Slavkovski, j'ai envie de dire que cette saison, ils ont pris un step. Ils ont évolué dans leur jeu à un niveau qu'on pensait pas
Suzuki
possible.
Suzuki est rendu à 80 points.
On pensait pas que Nick Suzuki ou encore Cole Caulfield, même Slavkovski, avaient ce potentiel-là. On savait que c'était des bons jeunes joueurs qui allaient avoir des brillantes carrières, mais qui allaient être capables d'élever leur jeu à ce niveau-là. C'est exceptionnel.
Je partage ton opinion à 100%. On parle énormément des gardiens de but à Montréal. Et là, tu as une statistique vraiment intéressante pour nous.
Parce qu'hier, on a gagné, puis c'est quand même un bon match de Jakub Dobesh. 2 buts sur 28 tirs. Mm-hmm. 3-2 en prolongation contre les Bruins. C'était un peu une sensation de game de série. Là.
Vraiment, Canadien qui a pris les devants par 2 points sur les Bruins dans le classement.
Puis RDS a publié une statistique ce matin sur ses réseaux sociaux. Lorsque nos gardiens ont un taux d'efficacité dans les buts de 900 ou plus cette saison, qui est un bon taux sans plus, mm-hmm. Là, 900, c'est pas un taux exceptionnel, c'est un match correct
oui.
pour un gardien. On a une fiche de 27 victoires, 0 défaite et 3 défaites
Pardon,
en prolongation.
0 défaite en temps régulier quand le goaler fait juste la job.
Quand le goaler fait juste sa job, on a 27 victoires en 30 match.
OK, Pascal, l'offensive du Canadien est complètement en feu. Je suis pas un fan du Canadien.
T'es un fan de sport d'hockey.
J'ai pas le choix de faire un saut. Quand Cole Caulfield a marqué hier, j'ai souri et j'ai dit « Wow, c'est bien hot ce qui arrive à Montréal présentement. »
Ah, c'est malade. Puis là, le prochain match qui est jeudi face aux Red Wings de Détroit. Grosse course aux séries à venir. Donc, si vous avez 2 matchs à surveiller ce soir, c'est les Pingouins face aux Hurricanes à 19h. Les Sénateurs d'Ottawa qui affronteront les Capitals de Washington à 19h30.
Les scènes sont sur une excellente séquence, mes amis. Mathias Turcotte, merci. Félicitations en tant que partisan du Canadien d'avoir enfin un marqueur de 40 buts. Ça remontait à Vincent Danfous en 93-94. Imagine, Mathias, Il jouait au Forum de Montréal. Il jouait même pas au Centre Bell parce que le Centre Bell a été bâti en 1996.
Fait que c'est le premier marqueur de 40 buts du Centre Bell.
Au Centre Bell, c'est Gold Caulfield qui l'a réalisé. Pascal Sévich, je te souhaite du repos. Merci d'avoir fait des triplés les deux derniers jours.
Avec plaisir. Merci aux auditeurs surtout.
Oui, on se reparle demain, guys. Comme on vous a dit, c'est une émission qui va porter sur le budget provincial. Un cours 101 de ce que ça fait un budget. Autant pour la ville de Québec que la province. On vous laisse avec le retour de Gravel, Antonine Iaccarini, Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Bye bye, guys! Gravel dans le